RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous.
Le meilleur des grandes gueules, c'est à déguster cet été. En attendant le retour des GG le 10 août prochain, en direct bien sûr.
On va réécouter les meilleures discussions des grandes gueules. On a parlé notamment des pistes cyclables, tutelle, les commerces, Sophie la girafe. Et oui, on parle de tout dans les grandes gueules. Made in France, Sophie la girafe, Made in France. Est-ce qu'on nous aurait menti?
Bref, on réécoute tout ça avec plaisir et sans modération.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt Picsou ou plutôt généreux en ce qui concerne les pourboires? La moyenne, c'est 3,10 €. C'est ce que dit une dernière étude concernant ce qu'on laisse au serveur, au restaurant ou au bar.
Oui, quand même une étude qui montre que les Français sont plutôt généreux. Ils sont nombreux à laisser des pourboires, sachant quand même que le service est compris. On n'est pas aux États-Unis, ce qui fait qu'a priori, on n'est pas obligé de laisser un pourboire. Donc, c'est plutôt... En plus, parfois, on peut se plaindre des notes un peu salées de certains restaurants. Donc on n'hésite pas à laisser un pourboire. Tu le constates, toi, Yves?
Alors moi je pense que les Français sont généreux, mais sont généreux si on est généreux avec.
Exactement.
Moi qui ai tenu toute ma carrière des restaurants, il y avait des employés qui faisaient facilement 5 fois plus de pourboire que les autres, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils étaient souriants, qu'ils étaient accueillants, qu'ils étaient au service du client. Et quand on est gentil avec les gens sont gentils avec toi. C'est aussi simple que ça. Les gens qui se plaignent et qui disent que les gens, c'est des radins, mais c'est eux qui sont radins dans leur comportement. Voilà. Ça, c'est une certitude.
Tu donnais des consignes. Comment tu disais au serveur, justement, de...
Mais, parce qu'il veut faire de l'argent, il est poli.
De bien faire leur métier.
Quand une personne arrive, reçois-les comme si c'était ton frère, comme si c'était ton papa, ta maman. Voilà. Avec de l'affection, avec de l'amour, avec de la passion. Et quand vous êtes client, que vous êtes reçu avec le sourire, avec la gentillesse, que vous demandez des explications parce que vous comprenez pas, qu'on vous prend pas pour un idiot à vous dire, mais comment ça, vous savez pas d'où vient le beurre Jean-Yves Bordier? Qu'on explique. Jean-Yves Bordier, c'est un maître beurrier qui vient de Saint-Malo, qui bat son beurre. Quand on est gentil, quand on explique, ben les gens sont généreux. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Sois gentil, les gens seront gentils avec toi. Les Français sont pas radins, c'est pas vrai. Moi, le premier, quand je suis mal servi, quand les gens se comportent rien, je ne laisse rien. Mmh. Et si les gens sont présents, sont professionnels, et qu'ils ont de l'empathie et qui ont compris que le client,
d'accord,
c'était la personne la plus importante de l'établissement, parce que c'est grâce au client que l'ensemble, d'accord, de l'établissement va,
mais,
vivre.
Pardon, mais la nouveauté, c'est quand même les pourboires un peu forcés.
Alors,
tu présentes le terminal, et il y a déjà les pourcentages de pourboires à laisser. Comme c'est le serveur qui te le tend, t'oses pas mettre 0%, mais c'est un peu forcé, on force un peu la main. Alors, moi, j'aimais bien l'idée que, alors, le problème, c'est que j'en ai plus de liquide, mais j'aimais bien l'idée que, c'est toi qui mettais, même d'ailleurs quand le serveur n'était pas là, et c'était un geste généreux. Là, c'est un geste un peu forcé.
Tu as donné l'explication, et t'as expliqué pourquoi en même temps.
Oui, oui.
Voilà.
Ben oui,
malheureusement, les gens n'ont plus de liquide. Donc les gens pas de carte bleue. Alors, moi j'ai connu.
Oui, mais on laisse ça pour voir pour pas être mal à l'aise.
J'ai connu l'avant. Je peux t'assurer que comptablement, avant, comment on faisait pour déduire les pourboires?
C'était compliqué.
Mais c'était pas faisable. On a arrêté. La comptable devenait folle. Il fallait retirer de l'argent encaissé pour le rendre en liquide au personnel.
Non, mais je comprends que c'est plus pratique. Et moi, je préférais, par exemple, quand tu dis, voilà, vous me devez 18 €, mais toi, tu arrondis à 20.
Exactement.
Avec la carte, et ça fait le pourboire. Je trouve ça plus généreux que le truc où il s'est marqué, où il y a marqué 15, 20, 30.
Oui, mais on l'acceptait pas. Quand tu étais capable de donner 2 €, toi, de générosité, parce que le gars avait fait son boulot, on lui disait, non, tu le fais pas. Donc il vous disait, non monsieur, on peut pas mettre les pourboires. Donc il n'avait pas de pourboire. Le fait des cartes bleues, c'est que je finis après.
Vas-y.
Le fait que les cartes bleues aient accepté le pourboire,
c'est pour
on
ça.
A augmenté de 20%.
Bah oui.
Les pourboires un peu personnels. Bah et oui. Je suis pas d'accord quand tu dis que c'est forcé. Tu as le droit de dire.
Augmenté, hein.
Non, tu as.
Ah non, quand j'ai pas envie, tu peux me mettre. Tu peux me mettre le pourcentage sous le nez, hein. J'ai aucun problème.
Si je suis pas content du service, si je suis pas content du comportement, je ne donne pas.
J'ai aucun problème. Elle lui dit genre.
Nicolas veut intervenir.
C'est quand même un vrai plus.
Nicolas, qui est artisan vigneron dans le Vaucluse. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes généreux, vous, dans les pourboires, ou vous attendez qu'on vous montre le montant et puis vous acceptez ou pas? Comment ça se passe?
Non. Ben, en fait, nous, on y va un petit peu moins, mais en général, on y va une fois par semaine, une fois tous les 15 jours avec ma femme. C'est notre petit moment, on est à nos comptes tous les deux, donc c'est notre petit moment tous les deux à midi. Et en fait, on laisse un pourboire, vraiment, si le service, on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez, c'est exactement. Vraiment, c'est le sourire du serveur, qui fasse bien son boulot, ça c'est classique, mais si on voit vraiment que il est, très dynamique, surtout chez les jeunes, hein, mais très dynamique, au petit soin, c'est ça, le petit truc pour, si on y va avec les enfants, je sais pas, moi, le petit crayon, la petite feuille de papier, c'est le truc.
Exactement. Non, mais en fait, la considération.
Mais Nicolas, vous avez raison, c'est juste du bon sens.
Personnellement, si le serveur il s'est pas occupé de moi correctement, j'ai aucun problème.
Mais vous préférez, Nicolas, décider du montant ou qu'on vous mette le montant sur le terminal?
En général, c'est ce que j'ai dans la poche, je mets entre 3 et 5 euros, je mets quand même 7. Moi, par le terminal, ça me gênerait, j'ai l'impression d'être forcé et j'aime pas ça. Et par contre, voilà, il faut vraiment que. Nous, quand on se range, c'est plus juste, c'est-à-dire qu'on prend l'apéro, on mange bien, on prend le dessert, on prend le café, voilà, on essaye de que c'est un commerce qui vit, quoi. Il y a vraiment besoin
bien
de
sûr,
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Et le plus, et surtout si chez les jeunes, parce que les jeunes, ils sont souvent stigmatisés. Moi, je vois pendant les vendanges, j'ai que des enfants entre 17 et 19 ans, hein, parce qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils sont dispo, parce que voilà. Et donc, je mets le petit plus parce que ça me fait plaisir. Mais par contre, si c'est sur le terminal de paiement, non, je le ferai pas.
Nicolas, c'est dommage parce que je vous promets que c'est pas forcé, c'est que comptablement
c'est plus facile pour le restaurateur.
Plus facile. Et aujourd'hui, après, tout le monde a la carte bleue.
Ouais, c'est clair. Mais
faut l'intégrer, ça. Il faut vraiment l'intégrer.
Moi, je suis un peu comme Nicolas et un peu comme Yves, c'est-à-dire que moi, j'aime regarder comment le serveur ou la serveuse se démène en fait pour t'apporter un service de qualité. Ouais. Comment il se démène pour ma table, mais j'aime observer aussi comment il se démène avec les autres en fait. Et on voit que c'est un métier extrêmement difficile. Extrêmement physique, contrairement à ce que l'on croit. Il faut une adresse qu'on n'imagine même pas, que tu sois dans une brasserie pour boire un verre ou que tu sois dans un restaurant pour prendre une bonne bouffe. Et effectivement, quand il y a le sourire, et même quand des fois le serveur ou la serveuse est un peu tendu parce qu'il y a du monde, je vais donner parce que je veux récompenser le travail bien fait.
Tout simplement. Prends l'exemple du facteur. Mon facteur, mais je l'aime.
Est-ce que vous êtes toujours généreux dans les pourboires, oui ou non? On va voir votre sentiment, qu'est-ce que vous en dites. Ah non, pas du tout, vous voyez, 69%. Parce que peut-être le service aujourd'hui n'est pas à la hauteur, quoi, tout simplement.
Parce que déjà tu as le prix à payer, qui
pouvoir juger prohibitif.
Autour de la table, il y a que Flora qui connaît. Hein.
Évidemment, je suis la seule à avoir mon de 50 ans dans l'âme.
C'est vrai.
Niska. C'est Niska.
Ah oui.
Réseau.
Ah oui.
Je connais pas.
J'ai vu, c'est Lolo. Ça te choque, Emmanuel?
Non, je suis allé récemment dans un grand festival de musique techno au Touquet.
Ah bon?
C'était absolument incroyable. Il y avait des milliers de personnes. C'est d'ampleur européenne. Il y avait les plus grands. C'était inouï. Bah, ça m'a plu pour voir. Mais bon, après, j'avais vu, je suis reparti quand même.
T'as pris de l'extra?
Non.
Il n'y en a pas besoin.
Des
il n'en a pas besoin, Emmanuel.
Bon, alors, que dit cette étude de l'ARCOM sur les jeunes et les réseaux sociaux?
Eh bien, l'ARCOM, et on les salue, nous montre que près d'un quart des enfants de 11 ans, 22%, disent avoir commencé les réseaux sociaux avant leur 10e anniversaire. Donc ça va même plus loin, c'est-à-dire que ils ont 11 ans et ils disent mais avant les 10 ans, on avait déjà commencé à être sur les réseaux sociaux. On voit donc qu'il y a une exposition de plus en plus précoce. C'est l'un des enseignements de cette étude. Moi ce qui m'interpelle, c'est que pourtant il y a tout un discours moraliste, hein, des autorités, ne mettez pas vos enfants devant les écrans, etc. et ça ne prend pas. Donc il va falloir changer de méthode. Alors il y a soit ceux qui disent il faut interdire, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants. Bon, alors ça va pas être évident à mettre en place, donc on n'a pas encore le mode opératoire. Et puis il y a d'autres qui disent c'est la responsabilité individuelle, et c'est la responsabilité surtout des parents qui doivent s'emparer du sujet et qui ne doivent pas avoir peur d'imposer des règles à leurs enfants sur les tablettes ou les smartphones.
Ben prenons un exemple concret, celui de David. Il nous a appelé tout de suite du côté de la Haute-Garonne. Il est délégué hospitalier. Bonjour David.
Ouais, bonjour à tous.
Salut. Vous avez mis des règles tout de suite avec vos enfants?
Non, alors c'est pas tant des règles que ça. C'est surtout vraiment surveiller. Moi, j'ai une appétence forte pour tout ce qui est écran, on va dire. Moi-même, je suis un peu un geek. Et donc j'aime bien et je suis TikTok, Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Le problème, il est dans l'accès des petits. Alors j'entends interdire les mineurs, etc. Vous pourrez rien interdire. Ils savent faire très très bien. Ils savent faire croire qu'ils ont tel âge, récupérer un autre téléphone. Enfin peu importe, ils accéderont quand même. Le problème, c'est ce qui passe. C'est une des applications les pires et les contenus qui sont les pires, c'est certainement sur TikTok, avec des algorithmes en fait qui vont enfoncer les jeunes. Ils vont commencer à regarder ça et puis ça va arriver jusqu'à des gens qui vont leur expliquer comment se suicider. Vous voyez, on en arrive là sur TikTok, ce qui n'existe pas en Chine, alors que c'est chinois, parce qu'en Chine c'est régulé, c'est-à-dire
il y a un TikTok particulier.
Voilà, donc l'interdiction de l'accès, faut pas y croire une seconde, ils sauront accéder à ces contenus. En revanche, c'est le contenu lui-même qui doit être régulé par les autorités. C'est qu'est-ce qu'il y a sur ces plateformes. Et si vous prenez le TikTok chinois, c'est comment être plus performant en mathématiques, comment bien apprendre ses leçons, comment faire ça. Le TikTok français, c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est ultra agaçant. Et les parents doivent surveiller le contenu, mais pas.
Donc
pas
c'est une double responsabilité.
Vous n'y arriverez pas. Ouais, à l'extérieur, ils y arriveront à y accéder. C'est des fausses barbes, tout ça.
Ouais, c'est une double responsabilité à la fois, quand même, des parents de regarder puisque, et limiter les contenus. Flora
Cette
Gabali.
Étude de l'ARCOM, elle démontre bien que la ligne que Charles a souvent dans l'émission, qui est de dire les enfants ont des parents et c'est les parents qui doivent s'occuper de ses affaires privées, si je résume, est fausse. Parce que bien sûr qu'il y a des parents qui sont deux déjà, puisqu'aujourd'hui il y a un quart des enfants qui grandissent en famille monoparentale. Donc ça concerne que trois quarts des familles où les parents sont deux et qui vont avoir du temps parce qu'ils ont des horaires qui sont compatibles avec une vie de famille et qui vont avoir l'intention de protéger les enfants des écrans. J'étais dans un train l'autre jour et à côté de moi il y avait une maman qui était avec son bébé et le bébé pleurait. Bon, c'est vrai que les bébés dans les trains, on sait que
parfois bébé, c'est un peu pleure aussi,
ça pleure aussi, mais parfois on sait que c'est un peu embarrassant quand on est avec un bébé dans un train.
Pour ça, qu'il faut pas prendre le train en seconde.
Elle lui a foutu le téléphone dans les yeux au bébé pendant tout le trajet et en fait ça l'a calmé immédiatement. On le sait, les écrans c'est puissant, c'est des addictions.
Une nounou,
vous le voyez
en fait.
Quand vous avez un bébé tout petit, vous prenez votre téléphone, il veut le prendre, il le voit tout de suite alors qu'il sait même pas encore lire, écrire, parler. Donc en fait si seuls les parents pouvaient régler ce problème, ça se saurait. Et comme l'a très bien dit notre auditeur, il y a des pays dans lesquels on met des règles aux plateformes aujourd'hui, et ça je vous jure que c'est vrai. Quand les plateformes sont convoquées par l'État pour des réunions de régulation, elles ne viennent pas. Voilà. Ah oui. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est plusieurs fonctionnaires qui me l'ont dit, de Matignon, des conseillers en cabinet, des fonctionnaires qui m'ont dit. On fait des réunions avec eux sur différents sujets. Il y en a un sur quatre qui se pointe. Donc, en fait, quand on veut un État fort, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, pour avoir un État qui est supérieur à des entreprises qui plus est, qui collectent toutes nos données, que ce soit pour la Chine ou pour les Américains, quand on veut un État fort, on y met les moyens.
Emmanuel.
En tout respect pour David, moi je pense le contraire, parce qu'il a pris l'exemple de la Chine qui est un pays communiste autoritaire. On ne pourra jamais arriver à des régulations aussi efficaces que la Chine, et j'allais dire heureusement. Non, moi je pense que en disant l'inverse, c'est que c'est au niveau des familles, c'est au niveau de l'accès à la plateforme et
sur
non
le
pas
tabac,
dans le contenu
on y arrive
de
très
la
bien,
plateforme.
Par exemple.
Tu permets, je suis père de famille, j'ai une expérience, je pense, antérieure à la tienne. Quand les enfants sont suivis, je suis désolé, on arrive quand même à fixer des règles. C'est pas n'importe quoi non plus.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules. Three,
je vois tous ces bobos avec leur vélo électrique, leur vélo cargo, les machins sont plus grands qu'un bus, tu vois. Non mais ça, c'est un truc de droite, hein. faut être raisonnable. Hein.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Ah, c'est
à bicyclette.
En fait, l'idée de la discussion nous est venue en partant de ce qui se passe à Bron, où il crée une nouvelle ligne de bus accompagnée d'une piste cyclable Mais du coup, c'est une boulangerie qui est là et qui dit, mais moi, plus personne va s'arrêter. On peut même plus s'arrêter en double file pour acheter le pain. Et donc, elle dit, bah, c'est presque mon existence économique qui est menacée.
Ah bah, la boulangerie va devoir fermer parce que ce qui est important, c'est cette piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large que la métropole de Lyon défend. Et donc, effectivement, le commerce gêne et donc il va devoir fermer. On a connu ça à Paris avec la rue de Rivoli, où ils ont fait quasiment des pistes d'aéroport. C'est pas des pistes cyclables, c'est des pistes d'aéroport. Je suis encore passé hier, j'étais effaré. Donc les voitures sont bien sûr. Il y a un embouteillage non-stop toute la journée sur une seule voie. Et il y a deux pistes d'aéroport qui servent aussi les voitures autorisées, alors les riverains taxi, et les taxis. Hein. Et donc tu as deux pistes. D'ailleurs, il y avait une piste qui était vide. Il y a tellement de place que même les vélos, ça ne peut plus où passer. Donc il y a un côté effectivement un peu bête et méchant. Le vélo en ville, c'est sympa, les pistes cyclables, mais est-ce que ça doit se faire au détriment de l'activité économique, du commerce et d'une boulangerie?
32-16 pour le dire aux grandes gueules, Bruno.
Non, mais en fait, ce qui tue les petits commerces, c'est quand même cette création de zones commerciales hors des villes. Ah, moi, je vois, le centre-ville de Vierzon a pris un coup dans la gueule une fois qu'ils ont créé cette espèce de truc en dehors de Vierzon. Et là, maintenant, ils commencent à revenir un peu dans le centre-ville. Mais en fait, c'est ça qui tue. Après, quand j'entends que les mecs se plaignent en disant, ouais, on peut pas se mettre en double file. Enfin, excuse-moi, double file, c'est quand même pas autorisé. Nous, moi, j'habitais à Clichy, à un moment donné, enfin, à côté de Clichy. À Clichy, c'est normal. À Clichy, il y a 3 voies à un moment donné. Bam, tu te mets en double file, t'as plus qu'une seule voie sur 3. Mais c'est un truc de fou. Les gens,
ça, c'est la conduite à la niçoise.
Ah, ça, ouais. Ou alors la conduite à la parisienne. Parce que les mecs, ils trouvent normal de se foutre en double file.
Après, il y a plus de place pour se garer.
Non, il y a plus de trucs de livraison comme avant. Rappelle-toi qu'avant, t'es dans les villes, t'as des trucs de livraison et tout. Ah, mais le vrai problème aujourd'hui, au lieu de se prendre la tête sur les pistes cyclables, il y a peut-être trop de bagnoles dans les centres-villes de nos villes, en fait, à un moment donné.
Est-ce que c'est normal que pour un jusqu'au boutisme écolo, on puisse amputer des commerces?
Ça, par contre,
pareil, moi, dans le village où j'habite, dans ma rue, pareil, on nous a mis une piste d'aéroport dans une rue qui est toute petite. Et si t'as 5 vélos par jour, c'est vraiment un miracle, quoi.
Mal,
donc, en fait, c'est de la posture, en réalité. Et là, tu te retrouves avec un commerçant qui va perdre du chiffre d'affaires au moment où on dit que les PME et les TPE sont en train de galérer. Et cet exemple à Bron, on le retrouve aussi dans un certain nombre de petites villes de bourg en France, quoi. Tout ça par une idéologie qui finit par être mortifère lorsqu'elle est mal utilisée.
Barbara.
Est-ce que la municipalité s'est enquis auprès de tous les commerçants? Parce que c'est ça aussi. La ligne de bus plus la piste cyclable, est-ce qu'à un moment, il y a eu une concertation avec les... Alors bien sûr les riverains, mais surtout avec les commerçants. Moi, je pense que tout ça, à chaque fois, se décide dans des conseils municipaux, en loose day, et ça ne concerne pas, enfin ça ne vient pas demander leur avis à ceux qui sont les premiers concernés. Donc encore une fois, la démocratie locale, parce que on pourfend le fait que à l'échelle nationale, on n'est pas entendu, etc. Mais croyez bien, à l'échelle locale, dans bien des domaines, on n'est pas écouté non plus. Il y a des mairies qui ne sont pas à l'écoute du tissu économique de leur ville. Il y en a, bien sûr, qui le sont, qui essaient de faire en sorte que les commerçants du centre-ville s'en sortent mieux. Mais vous en avez plein qui ne le font pas. Et de la même façon, d'ailleurs, la multiplication, là, je parle en tant qu'automobiliste, de nombre de places. Vous savez, les places de 5 minutes, là. C'est horrible aussi, ça. Vous pouvez pas vous garer en ville. Vous avez une multiplication de
avec
places que pour 15 minutes.
Avec un minuteur.
Moi, je me suis déjà fait envoyer la fourrière avec ça.
Putain.
Oui, c'est comme la rue de Rivoli. Je l'ai prise aussi. Je savais pas que c'était interdit aux voitures. Bon. Moi, je ne lis pas beaucoup non plus les panneaux, faut dire. Donc. Je conduis.
C'est vrai que
c'est accessoire.
Tous ces panneaux.
C'est accessoire.
Les panneaux ne regardent pas la ligne droite.
Téléphone au volant.
Le problème des pistes cyclables, c'est que le truc bidirectionnel, quand tu n'es pas au courant, moi je me suis retrouvée plein de fois en face avec un vélo qui m'arrivait en plein devant. Et ça, c'est hyper dangereux parce que tu renverses à Versailles, c'est le règne, c'est la ville des vélos cargo. Donc excuse-moi, mais quand t'as un vélo cargo au milieu de la rue, tu n'avances plus. Toutes les voitures sont à 20 parce que t'as madame qui transporte les trois gosses et qui pédale. Et toi, tu n'avances pas parce qu'elle est avec son vélo cargo. Donc ça aussi, les vélos cargo, moi, j'en ai ras-le-bol des vélos cargo.
On va en parler avec Samuel. Il est restaurateur. Il est du côté de Gironde. Bonjour Samuel.
Bonjour à tous.
Bonjour. Est-ce que les pistes cyclables, ça fait du mal au commerce?
Alors, les pistes cyclables, alors moi je sais pas si les pistes cyclables font du mal au commerce, mais moi sur mon sujet à nous, alors moi j'habite à Bordeaux, donc nous c'est la ville justement où la piste cyclable fleurit partout. On supprime les stationnements, c'est le grand jeu à Bordeaux, c'est de supprimer les stationnements des voitures. Là encore ce matin, Dans mon quartier, on a encore supprimé 2 places pour mettre des arceaux à vélo. Avant-hier, c'était 3 places pour mettre des arceaux à vélo. Le projet, c'est carrément pire que ça. C'est-à-dire que nous, on a une piste cyclable. Alors, il y a des projets, vous savez, dans les grandes villes qui sont subventionnés par l'Europe. Le budget à Bordeaux, c'est 150 millions d'euros subventionnés par l'Europe pour faire le fameux projet rêve de Bordeaux. C'est 11 grandes lignes de vélo d'extérieur de Bordeaux pour rentrer dans Bordeaux. Et là, on décide, tout d'un coup, il y a un an et demi, il y a une année à peu près, de dire, dans notre rue, à nous, il y a déjà une piste cyclable qui existe, qui est mélangée avec la voie de bus, et il y a une place de stationnement. Et ils se sont dit, les places de stationnement, on va les supprimer et on va faire une piste cyclable. Mm-hmm. Mais sauf que moi, j'ai mon restaurant qui est là.
Ouais.
Moi, c'est un restaurant qui est là depuis 22 ans maintenant. J'avais déjà appelé au Grande Gueule il y a quelques temps. Moi, les gens viennent chez moi en voiture, puisque je ne suis pas dans Bordeaux Centre. Je n'ai pas de boutique autour de moi, je suis dans un quartier résidentiel. Le projet, c'est de supprimer les stationnements. Nous, on a monté une association pour ça, qui est maintenant une association qui s'agrandit depuis un an et demi. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus dans toutes les villes de France. Et donc la mairie joue un peu avec nous, c'est-à-dire qu'elle nous dit « Non mais attendez, en fait on va revoir le projet, non mais oui vous aviez raison ». Nous on a fait un contre-projet, donc nous on est allé plus loin que ça, c'est-à-dire que nous on a redessiné.
Ouais, d'autres propositions, ouais.
On a vraiment fait une proposition de contre-projet, c'est pas juste dire « Votre idée elle est pas bonne, on n'en veut pas ». Il faut pas aller comme ça, parce qu'avec les mairies il faut essayer de discuter quand même un petit peu avec les mairies. Ouais. Le contre-projet est intéressant, alors on vous dit « Oui mais nous on va abandonner le nôtre », mais rien n'est écrit, et pendant ce temps, on vous enlève des stationnements, mais ça, c'est partout dans Bordeaux. Hein. Et en effet, si vous regardez à Bordeaux, et ça, le maire peut dire ce qu'il veut, il suffit d'appeler juste la Chambre des commerces de Bordeaux, et en effet, il y a 30% de magasins à Bordeaux qui ont
des pistes cyclables. Mais Samuel, justement, vous avez fait une contre-proposition, vous dites on doit pouvoir s'arranger, c'est un peu projet contre projet. On a le boulanger de Bron qui est avec nous, Abdel, la boulangerie Panéo. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour
RMC. Salut, bienvenue Abdel. Alors effectivement, c'est problématique cette piste cyclable, ça vous menace vraiment?
Ah oui, ça met en péril notre business plan, le commerce... Est fortement impacté dans le sens où nous sommes sur une voie très passante, 30 000 véhicules jour,
ouais.
Et on nous supprime ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire une bonne partie du parking. Ça fait 40% en tout de surface en moins,
ouais.
et à terme, ce sera plus viable. Hein.
Vous aviez été consulté? Vous étiez informé de ce qui allait arriver?
On était, lorsque nous avons acheté en 2015, il y avait déjà sur le PLU un projet, mais qui était de 2 mètres de préemption. Et lorsque nos amis écolos sont arrivés en 2019, c'est passé à 5,50 mètres. Ils ont rajouté les voies lyonnaises dans les deux sens, piste cyclable avec les vélos cargo, donc c'est plus large, et des arbres. Sachant que nous, déjà, notre parking est arboré. On a des beaux oliviers. La communication, il n'y en a pas eu.
Vous
avez mis devant le fait accompli, c'est comme ça. Et pas
mais aujourd'hui, est-ce que quand vous allez à la métropole, vous faites valoir effectivement votre activité économique, puis surtout la survie de votre activité, parce que derrière, il y aura peut-être des licenciements à la clé. Qu'est-ce qu'ils disent,
Abdel?
Abdel,
oui.
Une commande.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils disent à la métropole?
Que disent-ils?
Ils disent qu'ils ont raison surtout et qu'il faut faire ce que eux nous demandent, tout simplement. Il y a à aucun moment ils nous demandent notre position, notre avis.
Vous allez être dédommagé.
On a fait des propositions nous d'aménagement pour qu'on puisse contenter tout le monde, mais il y a aucune oreille à l'écoute. Hein.
Est-ce que vous serez dédommagé?
Oh, vous savez, hein, c'est si je vous parle de la proposition qu'ils nous ont faite, c'est juste dérisoire. Hein, on aurait préféré un euro symbolique, ça aurait été plus.
En plus, c'est de l'argent public, donc
on
vous empêche de travailler et ensuite avec l'argent public, on va vous dédommager.
C'est-à-dire qu'en fait, on venait faire les courses chez vous parce qu'on avait un parking juste à côté, on descendait, on venait faire les courses, hop, et puis on embarquait dans la voiture, quoi, en fait, Abdel. C'est
voilà,
ça.
C'est surtout que voilà, comme je vous disais, on est sur une voie très très passante. Il y a très peu de piétons. On a fait venir un huissier qui a fait du comptage, c'est même pas 10%. hein, entre les vélos, les trottinettes et les piétons. Et 90%, on est juste derrière tout un gros pôle hospitalier, neurocardio, mère-enfant.
Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais.
Et les ambulances, les taxis, tous les camions d'ouvriers qui partent le matin, c'est pas en vélo qu'ils se déplacent, ces gens-là. Donc eux, c'était très pratique. Ils rentraient, ils prenaient leur formule, ils s'en allaient. Et ils nous disent, oui, mais vous verrez, ce sera remplacé par 5-6 000 vélos jour. Donc moi, j'aimerais bien 5-6 000 vélos jour, sauf que c'est pas, premièrement, c'est pas les mêmes piétons. Ouais. Moi, je suis pas très pertinent, sachant que je trouve que ça passe pas très pertinent parce qu'on est à 500 mètres du périph. Donc,
Abdel, on se retrouvera quand ce sera terminé, effectivement, pour voir, vous nous tiendrez au courant.
Ça sera trop tard.
Oui, mais comment lui derrière, il va rebondir aussi. C'est surtout ça qui est important.
Ce qui est terrible, c'est qu'il va être obligé de licencier sans doute du personnel.
Merci Abdel d'avoir été dans les GG, les pistes cyclables. Est-ce qu'elles tuent les commerces? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? On va regarder. Vous mettez oui à quasiment 80%.
Alors c'est vrai que depuis des années on généralise ce dispositif de conduite accompagnée et selon les spécialistes il a démontré son efficacité. Les candidats qui sont issus de cette conduite accompagnée réussissent l'examen pratique du permis dans 75% des cas contre 59% pour la filière classique et leur accidentalité la première année de conduite autonome recule de 20 à 30% voire davantage à l'international lorsque le dispositif est complété par des restrictions, notamment interdiction de conduite la nuit, de transporter plus d'un passager, etc. Bah oui. Alors, est-ce que les adolescents sont suffisamment matures pour commencer à apprendre à conduire dès 14 ans? Qu'en pensez-vous, tiens, Barbara?
En sixième, on pourrait déjà. 14, 13.
Aujourd'hui, c'est 15 ans à la conduite accompagnée.
Ça a déjà été rabaissé. Ouais.
Donc, déjà.
Quelle est la différence entre 14 et 15 ans?
Quelle est la différence entre 14 et 15? Alors, regardons à l'international. Alors, il y a deux pays où le permis de conduire est à 14 ans. C'est un, le Canada, dans certaines situations. Et certains États américains, pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise ces deux pays? La distance. Ouais. Donc, dans les États américains les plus ruraux, les très profondément ruraux, genre Iowa et compagnie, Dakota, etc., on peut un peu plus comprendre pourquoi on rabaissera encore plus à 14 ans, par exemple, l'âge de conduite, parce que il faut que les gamins ils se déplacent, y compris pour aller à high school, etc. Ouais. Donc voilà. En France, où l'on a quand même, à part effectivement dans les zones rurales, à part en France, on a quand même des petites distances et essentiellement une population qui vit en métropole. Quelle est l'utilité pour un gamin de 14 ans d'avoir la voiture? Et dans les zones rurales, ou même, j'en vois certaines fois dans les banlieues chics, vous avez maintenant ces espèces de petits cubes horribles là, la petite voiture Citroën, ça s'appelle Ami, voilà, qu'on peut conduire sans permis. Ouais. Alors, faut avoir quand même papa et maman qui ont un bon compte en banque, parce que ça coûte
10 000.
Une blinde.
Oui,
voilà.
10 000 euros.
Oui, mais t'as toujours des gens, bon, voilà. Tu peux les louer aussi, hein. Je crois que c'est 100 euros par mois pour la louer. Donc, je peux comprendre, par exemple, en zone rurale, pour aller jusqu'à ton bus, ou etc., d'avoir, ou un petit scooter, ou une petite amie. Enfin, de là à baisser. On n'est pas dans le Dakota, on n'est pas dans l'Iowa, on n'est pas dans les plaines canadiennes. Mais non, ça n'a aucun intérêt, à part faire un peu d'argent pour les compagnies d'auto-école.
Donc,
qui a fait cette étude?
Non, mais ce que disent les responsables de cette étude, ils disent qu'aujourd'hui, les ados sont utilisateurs de la route plutôt qu'avant, parce qu'il y a les trottinettes, il y a les deux roues, etc.
Et donc,
ils connaissent assez peu les règles et les dangers. Donc, si ils commencent dès 14 ans à faire ce processus de conduite accompagnée, ils vont apprendre aussi des règles importantes.
Non, il y a le BSR
de la
collège.
Route et autres.
Oui, rigole. En troisième, on leur fait passer déjà.
C'est pas un permis.
Ah non, c'est pas le permis, mais ils ont déjà quelques notions pour circuler en vélo et en trottinette.
Et l'autre argument, ils disent finalement, il n'y a pas une grande différence de maturation entre 14 et 15 ans. C'est assez marginal. Donc, si c'est 15, pourquoi pas 14, Antoine Hirs?
Moi, j'étais déjà surpris qu'on abaisse de 16 à 15. Et qu'on abaisse encore à 14, ça me paraît dangereux. Mais pour l'apprentissage de la route, on fasse de la mobilette, etc. Moi, j'ai fait la mobilette, j'ai fait la formation, ça s'appelait la SSR à l'époque, et j'ai connu la route à vélo, à mobilette, et donc tu apprends la route. Je comprends pas bien l'argument de dire il va falloir leur mettre une voiture entre les mains pour qu'ils apprennent la route. Voilà, attendons 15 ans, ça sera déjà bien. Et la conduite accompagnée, par contre, c'est super bien, mais on peut attendre 15 ans.
Bruno Poncet. Qui a fait de la conduite accompagnée ici,
moi,
d'ailleurs?
Non,
Antoine.
Moi.
Moi, je suis un très bon conducteur. Pas, je crois
non,
pas.
Ça n'existait pas pour mon époque. Pas, t'attendais 18 voilà. ans.
Mais hein. Vous êtes des boomers.
Ah bah ça, on est
et Antoine,
mais...
c'est le jeune de la bande.
Oui, mais on n'a pas eu d'accident. T'as eu des accidents, toi?
Je dirais rien, Barbara. Bon, d'accord. J'en ai eu quelques-uns. Bah, quelques, pas beaucoup, mais quelques-uns.
Ouais, mais ça fait très longtemps que tu conduis aussi.
Oui, oui, non, c'est sûr. Hein.
Puis, une ancienneté.
Ça fait très longtemps que je conduis mal, surtout. Non, mais moi, je sais pas, mais on a un vrai problème en France avec le permis, si tu regardes bien. On le donne de plus en plus tôt aux enfants. Aujourd'hui, tu vas avoir le permis à 17 ans.
Oui.
C'est pas 18 ans.
Ouais, c'est 18 ans. Depuis Mme Borne, c'est 17 ans maintenant.
17 ans. Donc, bon, après, moi, je pense que oui, effectivement, tu peux entre 17 et 18 ans. Mais le problème,
surtout
c'est
si,
que.
Surtout si c'est des voitures automatiques.
On n'a pas de suivi du permis. En fait, un gamin qui a le permis à 17 ans, il peut être aussi dangereux qu'un gamin à 18 ans, c'est pas le sujet. Mais des fois, à 17 ans, tes copains, t'es encore au lycée, tu peux vite un peu te faire emmener. Je connais un gamin, mais il y a eu un accident dans le patelin où vit mon pote. Un gamin de 17 ans, il a pris la voiture le soir à ses parents, il s'est foutu dans un mur, il a tué deux personnes à côté de lui, hein, et deux gamines de son âge. Après, il y a un truc, c'est que vous peut-être me donner le permis à un gamin de 14 ans, 15 ans, même en conduite accompagnée, qui a un vieux de 75, 80
ans. Ah, ça, je suis bien d'accord.
Qui commence à être dangereux, pas les mêmes réflexes et tout.
Bien
à
d'accord.
14, 15 ans, quand même, qui est un peu plus tonique.
J'en connais un, et je peux vous dire, c'est un danger public, et on sait plus quoi faire.
Tu peux parler d'Alain Marchal quand il est pas là aussi.
Avec sa Picanto.
Avec sa Picanto.
Très dangereux. Si vous croisez une Picanto à toute allure à Nice, surtout c'est qui Alain roule qui est
avec
en vacances.
Sur les, sur gominé, les cheveux blancs gominés.
Avec et surtout le bras, comme
le
ça,
bras, ouais.
ça. Le bras plié le bras, sur ouais. la portière. Bah oui,
et Lilou sur les genoux.
Et tu bronzes
avec le
côté.
Maillot de Nice.
Xavier est avec nous. Bonjour Xavier. Il est propriétaire de 3 auto-écoles du côté de la Haute-Garonne à Revel. Bonjour Xavier.
Salut Olivier, salut les GG.
Alors vous qui êtes un professionnel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de baisser la conduite accompagnée à 14 ans ?
Absolument pas, pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que déjà à la base, quand on avait baissé à 15 ans la conduite accompagnée, les élèves ne pouvaient pas passer le permis à 17 ans s'ils n'étaient pas issus de la filière de la conduite accompagnée. Or aujourd'hui, tous les élèves peuvent passer le permis dès l'âge de 17 ans. Et là, en baissant à 14 ans, ce que ça va faire mécaniquement, c'est qu'on va dire qu'ils peuvent commencer à passer le permis à 16 ans. Le souci, c'est que ça met davantage de personnes en situation de pouvoir passer l'examen. Sauf qu'en face, on n'a pas davantage d'inspecteurs. Donc le seul truc que ça fait, c'est que ça contracte les temps d'attente pour avoir une place d'examen. Et quand vous entendez là tout le temps que ça gueule à droite à gauche parce que les élèves peuvent pas passer le permis parce que les formations durent 3 plombes, ben mécaniquement on nous y oblige. On nous met d'autant plus d'élèves à former, mais avec beaucoup moins d'inspecteurs pour passer l'épreuve. Donc ben au bout d'un moment, mécaniquement ça coince. Hein. Et autre point, c'est qu'à 14 ans, souvent, et ben notamment les garçons, la maturité est pas toujours géniale. Déjà, quand vous voyez que certains, vous leur faites passer le BSR pour être en scooter et les notions de danger, c'est chaud. Non, il y a des choses bien mieux à faire. Déjà, quand les élèves conducteurs veulent avoir l'ami, ce qui serait bien, c'est de leur faire passer le code. Parce qu'aujourd'hui, vous passez juste le BSR pour le scooter et vous prenez une petite amie, vous n'avez absolument pas le code de la route.
Exactement.
C'est un scandale. Vous voulez baisser le tarif des permis de conduire pour les élèves, c'est pas compliqué. Passez-nous en franchise de TVA. Les prix, mécaniquement, on va les baisser de 20%. Ça coûtera moins cher pour les gamins. Mais sauf que comme on rapporte plus d'un demi-milliard de TVA par an à l'État, je vous garantis qu'ils vont pas le faire. Hein. Et après, c'est nous qu'on accuse. Donc, au bout d'un moment, mettez plutôt des mesures que nous, on va préconiser pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien la formation et qu'il n'y ait pas de couler d'étranglement pour le passage de l'examen. Aujourd'hui, on libère les élèves en conduite accompagnée. On libère les élèves en conduite supervisée. Quand on fait les permis remorques, les petits, les B96, c'est nous aussi qui libérons. Je veux dire, si on veut qu'il y ait toujours un passage devant un examen, devant un inspecteur, j'ai aucun souci avec ça. Mais pendant la période probatoire, laissez les élèves conduire, parce que qui mieux que nous sait si l'élève il est prêt ou pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens le jour de l'examen, faut pas se leurrer. Hein. Et derrière, après leur fin de période probatoire, pour avoir leur permis définitivement validé, là, vous les passez devant un inspecteur et vous allez voir comment les taux de réussite, ils vont monter bien plus haut parce que, comme vous l'avez dit, quand on a fait de la conduite déjà préalablement grâce à la conduite accompagnée, si on faisait la même chose pendant sa période probatoire, on passe devant l'inspecteur et 75% long du premier coup. Donc, il y a des solutions, mais c'est des gens de terrain comme moi qu'il faut écouter et pas des... qui font des putains de d'enquêtes à 2 balles là, et après je sais même pas à qui ils les font parce qu'ils m'ont pas sollicité en tout cas.
C'est clair.
Xavier qui pousse un coup de gueule au passage. Merci Xavier d'avoir appelé au 32-16. Après moi ça me semble pas illogique de dire que plus un gamin est confronté aux règles de la conduite, le code de la route, des règles de sécurité, c'est une bonne chose. Et je pense que ça donne une maturité quand tu commences à faire la conduite accompagnée avec tes parents. Toi, Antoine, tu l'as fait.
Ouais,
je pense que tu es un meilleur conducteur que quand tu commences
à 18 ans, oui, mais... tout seul.
Oui, à 14 ans. Ouais. Pardon.
On est dingue, déjà 14 ans.
À 14 ans.
Si vous les voyez, les élèves de 14 ans.
T'as pas la notion de danger que la voiture peut représenter. Mais justement,
tu
peux
14 ans, c'est du 4e, 3e.
Bah oui, mais tu peux l'apprendre, justement.
Et, pardon, mais on dit mineur de moins de 15 ans, la majorité pénale, là. T'étais même pas responsable pénalement avant 15 ans. Et là, tu pourrais conduire. Waouh, ça me paraît.
Ça, c'est peut-être pour commencer à nous annoncer le droit de vote à 16 ans.
Imagine un peu, les filles, ça commence à te chatouiller à 14 ans. Tu prends la bagnole de tes parents.
Attends, est-ce que j'ai Célim? Célim, il est pour. Il va avoir une minute pour nous convaincre. Célim, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone.
Ah, vous êtes gérant d'auto-école, vous aussi. Alors, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord dans la profession. Alors, Célim, je vous laisse une minute.
Allez, je suis totalement pour. Bah, déjà, la première, c'est que le permis à 17 ans, ça a totalement cassé la conduite accompagnée. Il y a tous les gens qui étaient partis, tous les élèves qui étaient partis en conduite accompagnée, ils ont cassé leur formation. Et on le voit en termes d'accidentologie. Aujourd'hui, depuis le mois de, là, on est au mois de juillet, c'est en pleine hausse, les accidents de la route. Qu'à 14 ans, on met déjà des enfants sur des mobylettes, des voiturettes, des trottinettes tout seuls. C'est-à-dire que là, à 14 ans, quand on parle de conduite accompagnée, ils sont accompagnés avec quelqu'un d'expérimenté à côté.
Ouais,
plus on apprend les choses tôt, garde les bons réflexes, les bonnes autonomies. Et j'aimerais rajouter une chose, il faut oublier aussi, on oublie une chose, c'est qu'on autorise quand même à 16 ans le permis 125. Autorise déjà à 16 ans de mettre des gamins sur une autoroute, sur un deux roues.
Ben Célim, ça y est, vous avez eu une minute avec des arguments.
Oui, c'était déjà débile, 16 ans.
Bravo Célim.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
Le RN est-il de droite ou est-il de gauche? Et au moins du point de vue de l'économie, on a du mal à comprendre et à le situer aujourd'hui, le RN.
Il y a clairement un double discours. Je vous conseille de lire la tribune de Jordan Bardella ce matin dans le Figaro. On a l'impression qu'elle a été écrite par David Lisnard, le maire de Cannes. C'est une tribune très libérale, pro-business, pro-entreprise, etc. Où Jordan Bardella décrit la France comme un enfer fiscal, il faut baisser les dépenses publiques, etc. Bon, très bien. Et puis, lorsque vous regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, vous avez le RN qui vote avec la gauche de nouveaux impôts, notamment ce fameux impôt sur la fortune improductive, concept assez nébuleux d'ailleurs. Donc on est dans un en même temps, c'est-à-dire qu'il y a visiblement deux lignes, même si ces deux lignes ne sont pas assumées comme telles. Il y a la ligne Bardella, qui est plutôt une ligne droite libérale, qui se rapproche de ce qu'un Bruno Retailleau, un Éric Ciotti ou un Éric Zemmour pourrait dire, et David Lisnard. Et puis il y a une droite plus à gauche, incarnée par Jean-Philippe Tanguy, qu'on voit derrière toi, Alain, qui est un peu le monsieur budget du RN, et par Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen se range plutôt du côté de Jean-Philippe Tanguy. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux lignes, à un moment donné, vont s'affronter forcément, puisque d'autant plus que si c'est Jordan Bardella le candidat à l'élection présidentielle, pour l'instant Marine Le Pen est empêchée, on verra si tout le RN se range derrière cette ligne Bardella, qui n'est pas celle d'une partie du Rassemblement National.
Explication. Il y a deux lignes parce que il y a deux géographies. Les points forts historiquement du RN, c'est d'un côté le sud-est de la France, et de l'autre côté le Nord-Pas-de-Calais. Or, c'est deux sociologies électorales complètement différentes. Le Rassemblement national du sud-est, c'est beaucoup de petits patrons, d'artisans, de petits commerçants, de petits chefs d'entreprise qui sont libéraux, anti-impôts, qui peuvent adhérer au discours d'Éric Ciotti ou de David Lisnard. Et par contre, le RN de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, celui où M. Tanguy est élu, celui où Marine Le Pen est élue à Hénin-Beaumont, c'est au contraire un monde ouvrier laminé par la désindustrialisation avec d'anciens électeurs communistes.
Ils sont obligés de faire le grand écart.
Et donc, comme il y a deux géographies, deux sociologies, ils font le grand écart entre d'un côté, on fait la politique de ses électeurs, on fait la politique de sa circonscription.
Une fois que tu es au pouvoir, il faut trancher.
Bien sûr,
sinon, ça devient n'importe quoi.
Et même, le plus, c'est que non seulement il y a deux lignes, la ligne Bardella, la ligne Tanguy, mais même Tanguy, moi, je l'ai entendu il y a un mois, c'était le vendredi 10 octobre quand il a fait un discours. En 30 secondes, il a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, Tanguy a réussi à la fois à parler comme Alain Madelin et comme Lénine. Il a dénoncé les sociaux traîtres, ce qui est une expression typiquement communiste. Il a demandé des baisses d'impôts, il a demandé la baisse de la dépense publique, mais en même temps, il voulait la retraite à 60 ans et il voulait plus de fonctionnaires et des fonctionnaires mieux payés. Alors je ne sais pas comment il arrive à tout faire tenir en voulant tout et son contraire et à résoudre cette équation impossible. Moi, je ne sais pas comment on a à la fois moins de dépenses publiques, la retraite à 60 ans, plus de fonctionnaires, bon, et moins d'impôts. Donc voilà, et une incohérence totale.
Est-ce que les Français vont pas s'en rendre compte?
Parfaite démagogie.
Et les Français vont s'en rendre compte là. Est-ce que les masses sont pas en train de tomber?
Alors ils pourront, mais ils continueront. Non, les électeurs continueront pas à voter pour le RN.
Moi, je pense pas que les lignes vont s'affronter, mais je pense qu'ils sont en train de jouer un jeu très dangereux parce que le RN est en train de devenir la République en marche en réalité avec le en même temps Marine Le Pen.
Encore de la marge.
Il va aux États-Unis. Oui, mais tu verras dans... J'espère pas qu'ils arrivent au pouvoir, donc je vais pas dire tu verras.
En tout cas, ils sont les favoris aujourd'hui.
Marine Le Pen qui s'est dite de gauche dans les médias américains. Jordan Bardella, c'est le commercial façon GQ Magazine. Lui, il va séduire les entrepreneurs. Et Jean-Philippe Tanguy, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Il est là, un coup à droite, un coup à gauche, il danse comme ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a, on arrive à une macronisation du Rassemblement National. Aujourd'hui, leur seule carte, entre guillemets, positive et vierge, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'ils peuvent dire on n'a jamais été au pouvoir. Mais je pense que, en continuant sur ce chemin, on a vu ce que ça a donné avec Emmanuel Macron. Et s'ils arrivent au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, on arrivera aux mêmes dégâts parce que la ligne n'est pas claire. Et quand la ligne n'est pas claire, c'est qu'il n'y a pas de conviction ferme au fond.
Barbara.
Il peut y avoir une impression de politique gribouille où effectivement, dans le délire absolu de ce qui se passe à l'Assemblée et avec cet effet loupe, puisqu'on y assiste en direct, je pense qu'on s'est jamais autant intéressé au débat à l'Assemblée.
Oui,
je pense
que,
honnêtement, je pense que si on s'était intéressé parfois au débat à l'Assemblée, on aurait vu que ça n'avait ni queue ni tête et que c'était le bal des girouettes. Et donc le RN, pas plus que d'autres, ne sont des girouettes. C'est juste que ils font avec une Assemblée nationale qui aujourd'hui, enfin franchement, c'est un canard sans tête. Ça ne ressemble plus à rien. Et d'ailleurs, comme ils savent très bien que ce budget va pas être adopté, c'est la foire au n'importe quoi. C'est la foire.
Mais la foire, la démagogie. Surtout.
C'est la foire. Exactement. Fouille, voilà. Le RN
et
y
le
participe.
Sénat va retoquer beaucoup de choses.
À mon sens, le RN y participe en grande partie pour des questions de stratégie, de déstabilisation politique. C'est-à-dire que eux, ils ont une stratégie beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile que le chaos insoumis, gueulard, et où on éructe sur les bancs à hurler, à dire n'importe quoi. Eux, ils ont une façon plus subtile de le faire, qui n'est pas moins efficace d'ailleurs, à mon avis, qui est tout aussi efficace. Par ailleurs, je rejoins ce que disait Jean-Loup, on répond à son électorat. L'électorat du Rassemblement National au cours de la décennie qui s'est écoulée, c'est-à-dire depuis que Marine Le Pen a repris le parti en main, elle s'est de plus en plus diversifiée du point de vue des catégories socio-professionnelles. Vous avez aujourd'hui, le Rassemblement National est un parti qui, à mon avis, est parmi les partis politiques qui est le plus divers d'un point de vue sociologique. Vous avez, il commence à arriver dans des catégories socio-professionnelles de classe moyenne supérieure.
Les cadres.
Il commence à y avoir des cadres, des enseignants qui commencent à voter Rassemblement National, des retraités, des ouvriers, des petits entrepreneurs, des gros entrepreneurs. Donc, à un moment donné, il faut satisfaire tout le monde. Mais, ce qui motive le vote Rassemblement National, c'est les priorités que les électeurs donnent au programme. Dans le programme du Rassemblement National, il y a un certain nombre de lignes. Et quand vous votez RN, vous faites le choix par rapport à vos priorités. Si vos priorités, par exemple, c'est la question du contrôle de l'immigration, vous vous dites, je vais voter RN. Ouais. Si votre priorité, c'est la libéralisation de l'économie, etc., vous n'allez pas voter RN. Donc, aujourd'hui, la priorité de l'électorat RN, on va voir ce que ça va être en 2027. Parce qu'à mon avis, si le RN est à 35, c'est pas sur des questions économiques. C'est que les gens, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, sur la question de l'État nounou, etc., ils ont envie d'autre chose. Et c'est plutôt ça, les fondamentaux du RN. Et je pense que sur ces fondamentaux-là, il n'y a pas droite-gauche, c'est le RN qui donne le là.
C'est difficile de dire précisément, ça sera ce thème-là qui sera majeur en 2027. Néanmoins, quand même, le thème de la dette et de surtout comment on continue à financer un modèle social qui n'est plus finançable, parce que si on veut garder notre modèle social, continuer à mettre 450 milliards sur les retraites chaque année, il va falloir quand même trouver des solutions. Et c'est sur ça que Jordan Bardella, si c'est lui le candidat, il sera jugé. Pour l'instant,
je trouve qu'il évite
assez habilement les balles.
Ils ont présenté un contre-budget.
Oui, mais c'est un budget qui est de 100 milliards. Enfin, c'était n'importe quoi le budget. Pardon, pardon, mais le budget présidentiel 2022 de Marine Le Pen, c'est plus de dépenses quasiment.
Non, je te parle du contre-budget
qui a été présenté il y a deux semaines.
C'est plus de dépenses quasiment que Jean-Luc Mélenchon.
Pas dans le budget il y a deux semaines.
Je parle du présidentiel, puisqu'on parle à présidentiel.
Moi, je te parle celui il y a deux semaines.
Moi, ma référence est 2022.
Oui, mais ils se sont adaptés à la situation de la dette.
D'accord, oui, très bien. Mais on verra. Et là, pour l'instant, Bardella évite les balles, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il soit concret sur ce qu'il veut faire de ce modèle social. Et pour l'instant, c'est pas concret.
Sauf que si tu veux gagner une élection présidentielle, tu ne peux pas gagner si tu veux faire 50+1 uniquement sur la sécurité et l'immigration.
Tout à fait.
Donc tu es obligé de donner des gages et de donner une ligne sur l'économie. C'est pour ça que Jordan Bardella d'ailleurs est allé au MEDEF, ce qui était une première d'ailleurs. Et ça, il va falloir qu'il clarifie effectivement si tu mets plus d'État dans les campagnes là où il y a effectivement.
Par exemple, sur la retraite, on comprend plus rien.
Bah, un manque. Mais même il faut que tu dises précisément ce que tu veux sur les retraites.
Parce que Macron
précisément ce que tu veux.
Enfin, Barbara, tu peux pas dénoncer Macron et être indulgent à l'égard de Bardella, Marine Le Pen.
Je suis pas indulgent, je te dis.
Effectivement, Marine Le Pen, comme le dit très justement.
Sur les retraites, tout le monde change d'avis.
Ça comment tu clarifies cette position si tu veux aller au de 50
ans, bien sûr,
faut que tu choisisses ton camp à ce moment-là.
Non, mais là où je suis d'accord à la fois avec toi, mais aussi avec Barbara, c'est-à-dire que je pense que l'électorat ouvrier, typiquement du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie, qui est anciennement communiste, qui est social, qui est étatiste, continuera à voter pour le Rassemblement National, même si le Rassemblement National est plus libéral,
exactement.
Même si cet électorat est en désaccord et désapprouve ce tournant libéral, ils continueront en fait à voter pour le RN
parce
pour
qu'ils sont
raisons.
Habités par la valeur travail.
Voilà,
c'est exactement. Pas des gens qui sont au chômage parce qu'ils aiment ça.
Des raisons liées à l'immigration et à l'insécurité.
Sauf qu'au sein des RN, tout le monde travail. N'est pas d'accord avec ce virage. Vous verrez, il y aura des oppositions à ce virage libéral.
Il y aura des tensions Tanguy Bardella.
Je pense que Jean-Philippe Tanguy n'acceptera pas ce virage libéral parce que lui ne l'aimait.
Oui, mais justement, parce que si vous regardez De Gaulle aussi, il était ni droite ni de gauche. Alors à la limite, parce que c'était pas le même contexte économique, mais De Gaulle, il était ni droite ni gauche.
Voilà.
C'est bien pour ça que tout le monde se revendique de Gaulle.
Hervé est chef d'entreprise du côté de la Gironde. C'est une PME, je crois. Bonjour Hervé.
Absolument. Bonjour messieurs, dames.
Alors, est-ce que vous avez compris la ligne économique du RN alors?
Je pense que le RN aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont ancrés. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi à l'écoute des gens, contrairement à d'autres. Moi, je suis dans la circonscription d'Edwige Diaz.
Oui.
Je sais pas comment elle fait pour dormir, parce que tous les week-ends, elle est sur le terrain. Ils sont sur le terrain, et ça ne se voit pas. Donc, je pense que les gens, eux, tout ce qu'ils voient à la télé, ça les intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe tous les jours. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, dans un premier temps, de faire du social. On n'a pas le choix parce qu'on a une situation qui est compliquée.
On n'a plus d'argent pour faire du social.
Mais oui, mais on a des gros problématiques à régler. On a l'hôpital, on a l'éducation, et ensuite, ce qui n'est absolument pas le cas dans le budget aujourd'hui, et là je mets tout le monde sur le pied d'égalité, on ne parle plus d'économie, on ne parle plus de création de richesse, on ne parle plus de développement, et à un moment donné, une entreprise comme la mienne par exemple, on se retrouve en difficulté parce que les clients aujourd'hui, ils attendent. Ils attendent. Et je trouve que on sera obligé de faire les deux. J'ai l'impression qu'on est un pays de droite, mais qu'il y a un modèle social de gauche. Donc à partir de là, il faut toujours faire du en même temps, même si ça ne plaît pas aux gens.
Bah oui, mais Hervé, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Quand Bardella dit, c'est vraiment, il faut lire la tribune de Bardella, est très instructive ce matin. Il dit, les macronistes ont livré l'économie du pays à la gauche. Très bien, mais que font les députés RN en ce moment? Ils votent avec les socialistes. Ils votent les mêmes amendements.
Exactement.
Alors moi, je veux bien, moi, le double discours. On ne peut pas reprocher à Macron d'avoir manqué des lignes conductrices, d'avoir changé d'avis comme de chemise, et être indulgent avec Marine Le Pen, qui finalement fait à peu près la même chose. Et je pense que ça ne marchera pas. Je suis d'accord avec Abel, ça sera un échec.
Mais regarde même l'échange.
Il y aura la déception au bout de 6 mois.
Et regarde l'échange que l'on a au plateau. Hervé, c'est ça l'auditeur?
Oui.
Il dit qu'on devra faire du social. Et tous les deux, Jean-Loup et Barbara, vous avez parlé d'insécurité et d'immigration. Et tu rajoutes d'autres électeurs. Moi, j'ai des personnes, des que je connais, qui votent Rassemblement National, qui ne lisent pas le programme, qui disent qu'ils veulent de la sécurité. Et il y en a plein qui disent, on a essayé la gauche, on a essayé la droite,
ça,
on veut juste faire sauter le système. Donc ne croyez pas que l'électorat est un groupe unique où tout le monde pense pareil.
Je
remercie Hervé d'avoir été avec nous et vous disiez... ça se voit pas, ils sont sur le terrain. Ben si, ça se voit. C'est-à-dire qu'aux dernières législatives, ils ont augmenté leur nombre de députés. Ils sont passés à 123 députés. Donc le travail de
d'ailleurs,
terrain.
D'ailleurs, le test, ça sera les municipales, le test.
Paye pour le Rassemblement National, effectivement. Merci Hervé d'avoir été dans les GIE. Alors économie, le Rassemblement National est-il de droite ou est-il de gauche? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, on va voir votre verdict. Vous le voyez plutôt de droite, le RN, à 62%.
RMC, 9h, midi.
Le meilleur des grandes gueules. RC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Avec un nouveau menu qui s'appelle le McDeal à 5 euros, qui est présenté comme presque le menu anti-inflation, le menu pro-pouvoir d'achat.
Oui, face au retour de l'inflation, mais aussi face à une concurrence menée par d'autres enseignes de fast-food, notamment Master Poulet et autres, eh bien, McDo a décidé de baisser ses tarifs, alors que ces dernières années, c'était plutôt l'inverse. Il a plutôt augmenté le prix de ses menus. Et là, il propose un menu premier prix à 5 euros. Pour 5 euros, tu as un burger, une petite frite, une petite boisson et un produit supplémentaire. Pourquoi? Ben parce que McDo doit aussi répondre à la demande des clients. Alors c'est vrai que on parlait de Master Poulet hier, il y a 30 ans José Bové démontait un McDonald's, on parlait de la malbouffe, etc. On voit bien qu'aujourd'hui c'est pas la préoccupation numéro un de ceux qui vont dans et qui font le succès de ces fast-food, hein, parce que les fast-food c'est vraiment, ça cartonne, hein, c'est un phénomène de société, parce que il y a d'autres enjeux, d'autres critères. Il y a bien sûr le critère du prix, le pouvoir d'achat, mais il y a aussi j'écoutais un spécialiste ce matin dans la matinale d'RMC, le critère de la satiété, c'est-à-dire que finalement, on en a pour son argent. C'est-à-dire que pour 5 euros, pour même 2 euros pour un pilon de poulet, bah finalement, on mange à sa faim, et ce qui compte. Et finalement, on s'en fout de savoir que le poulet est ukrainien. D'ailleurs, on veut pas savoir d'où vient le poulet, on veut pas savoir d'où vient la viande. Ce qui compte, c'est avant tout ce qu'on va manger et son propre plaisir personnel.
Didier Giraud, attention.
Non, on t'attend. Enfin, je vais essayer de répondre à Olivier plutôt que McDo baisse ses prix. Enfin, que McDo baisse ses prix en soi, c'est pas ça qui me dérange. Pour moi, on est exactement sur le même sujet que Sophie, quoi. Moi, je signais un accord avec McDo. J'étais au salon, président de région au JA. On signait un accord en 2004 avec McDo pour créer ce qu'ils appelaient le petit charolais, qui était un steak de bœuf tracé local, quoi. Tout ça, c'est parti aux oubliettes. McDo a fait sa réputation là-dessus. Et aujourd'hui, si tu veux savoir l'origine des viandes chez McDo, faut présenter une carte de la DGCCRF. Parce que c'est obligatoire, mais nulle part, il y a l'origine des viandes dans les McDo.
Pourtant, c'est dans la loi, c'est une obligation.
C'est une obligation, mais il n'y a plus un resto en France où il y a l'origine des viandes. Hein.
Bah, chez Master Poulet, j'imagine qu'ils ne montrent pas l'origine des viandes.
À un moment donné, c'est aussi ça. C'est qu'on est exactement sur le même sujet que Sophie, quoi. À un moment donné, tu veux relocaliser la production de Sophie, mais ce qu'on fout dans ton assiette, tu n'en as rien à foutre. Ça me gêne.
Pourquoi aujourd'hui, il y a pour beaucoup de gens... C'est pas la question, et pas de savoir ce qu'ils mangent, c'est ça, d'où vient la viande.
On va aller au bout du raisonnement, parce que c'est ça qui va m'énerver. C'est que moi, on m'impose des normes, parce que ce que je produis, c'est soi-disant cancérigène, quoi. Et comme c'est cancérigène, on m'impose des normes. On me dit, t'as pas le droit d'utiliser ça, t'as pas le droit d'utiliser tel désherbant, t'as pas le droit de faire ça à tes vaches, t'as pas le droit d'arracher des haies, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, parce que toi, tu dois produire pour ne pas donner le cancer à tes concitoyens. Mais mes concitoyens, quand ils vont à McDo, à Master Poulet ou je sais pas où, ils s'en foutent s'ils prennent le cancer ou pas, quoi. Hein. Le tout, c'est que ça coûte pas cher.
Et que ça soit bon.
Je suis désolé.
Parce que c'est pas seulement le prix, c'est que
ils ressortent et dire que c'est bon. C'est la sauce qui est bonne. Arrête de dire n'importe quoi.
Pardon, Didier.
Enfin, non, je peux pas dire que j'ai jamais mangé à McDo.
Mais oui, mais t'as jamais mangé. Mais pardon, ils sortent, ils sont contents d'y aller. Ils sont contents d'y aller. Ils n'y vont pas honteux.
5,04€ de packaging. Voilà.
Oui, mais
super.
Mais non, mais
si ça, c'est de la bouffe, vas-y, fais l'apologie.
Je ne fais pas la promo, mais je pense que culpabiliser ces gens-là, ça n'a aucun intérêt, puisque ceux qui y vont trouvent que c'est très bon, ils sont contents.
Non, pas
et
très
ils
bon
y retournent.
Non plus, c'est pas très
mais
très
si,
bon.
Mais en tout cas,
moi, j'y vais
pour
5
euros, ils sont contents.
J'ai un fils qui peut faire du McDo, du KFC, du machin, et puis qui peut aller aussi de temps en temps bouffer dans un étoilé.
Mais tout le monde
y a
fait
tout dans
ça.
La nature, quoi. Et les gens, ils font aussi avec leur vie, quoi. Ça, je veux bien l'entendre.
Simplement pour répondre à la question de Didier, aujourd'hui, 55% de la viande chez McDo sont les élevages français, surtout venant de l'Ouest et du Centre, et les abattoirs sont...
Ça, c'est les chiffres qui disent.
Audités par McDo.
Moi, je tiens mes chiffres d'un responsable de chez Bigard, qui les fournit. Hein.
Je finis. Ensuite, je t'ai dit que 55%. Hein. 45%, ça vient d'Irlande et des Pays-Bas, parce que McDo dit même manquer de volume par rapport à la masse et de ne pas pouvoir se fournir totalement.
Moi, ce qui me gêne là, c'est que McDo nous fait croire que c'est un cadeau qu'ils sont en train de faire par rapport aux Français. Sauf qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis 2019, les prix ont augmenté de plus de 40%. Rappelez-vous, les menus, là, jusqu'à il y a peu, c'était entre 11 et 14 euros. Un menu McDo, quand même. Et on nous dit que c'était proche des Français. C'est quand même le premier restaurateur de France, McDonald's. Mais là, moi, ce qui me choque, c'est qu'on est en totale contradiction avec la santé publique. On te dit, bon ben voilà, il faut faire attention à ce qu'on mange, parce qu'il faut manger local, il faut manger bio, etc. Et puis en fait, là,
mais
finalement...
Qui dit on?
Bah, le gouvernement.
Oui,
le
mais
gouvernement
c'est ça.
Ou même...
Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce message officiel et qui est relayé dans les médias? Nous-mêmes,
si
on est là.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on est en contradiction avec la santé publique.
Alors, c'est ça intéressant, c'est pourquoi les gens ne suivent pas ces messages?
Mais parce que pareil, ils regardent par rapport à leur portefeuille, donc ils font en fonction de ce qu'ils ont.
Moi, je pense que c'est là que tu te
après.
Là, vous non, mais c'est devenu culturel, McDo.
Premier, aller au McDo, c'est devenu. Mais les gens sont contents. Oui, et les gens qui vont chez Master Poulet, ils ressortent pas honteux en faisant la gueule, en disant j'ai pas bien mangé. Ils disent moi pour 2 euros, je suis très content, j'ai
mais
plus faim.
Ça, c'est aussi parce que les industriels depuis 30 ans. Ils sont basés sur la chimie et ils savent comment on rend quelque chose attractif, bon, salé, sucré, voilà.
Non, mais c'est parce que les consommateurs, ils n'ont pas le choix non plus. Le coût de la vie est devenu tellement élevé que...
Non, il n'y a pas que ça. Moi, je pense que...
Il y a 20 ans, tu avais des offres chez McDo, c'était 4 menus pour 11 euros. En 20 ans, le coût de la vie. Et puis, c'est vrai que là, on parle beaucoup de McDo et de Master Poulet parce que c'est eux qui sont sur le domaine.
Mais justement, les gens, ils y vont, ils disent c'est trop bon.
Mais aujourd'hui, ils vont.
C'est pas seulement le prix.
Mais
j'y vais, moi.
Mais moi aussi, j'y vais. C'est pas trop bon. Tu manges ça parce que t'as pas beaucoup de temps. Parce que c'est pratique. Parce que ça peut être chez toi.
Mais les mômes, ils y vont. Mais pardon, mais les mômes, ils disent ils y vont. Mais parce que c'est trop bon.
C'est culturel.
Mais voilà. Arrêtez de culpabiliser, faire la morale là-dessus.
Nous, on allait faire un baby-foot et puis boire un Monaco. Enfin, c'est pareil.
Mais c'est aux parents de. Mais je pense que justement parce que c'est des messages officiels, institutionnels, ça ne passe plus.
Il y a aussi quelque chose dans la découverte du goût. Tu vois, il y a aussi quelque chose qui est lié aux parents dans la découverte du goût.
Dans l'éducation du palais des enfants.
Le goût d'une viande bouillie, le goût d'un brocoli, le goût de... Et ça, je suis désolé, dans ces chaînes de fast-food, la sauce, elle annule tout, quoi. Elle annule les goûts.
Moi, en fait, il faut pas être...
Tes enfants et tes petits-enfants, ils vont au McDo.
Alors, moi, j'ai fait attention à ce que mes enfants aient accès au goût. C'est-à-dire que au goût des légumes, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont aussi, ils fréquentent, ils ont fréquenté enfants les McDo. J'ai des petits enfants, j'adore les emmener dans des restaurations rapides. Mais il y a quand même un truc important, c'est que en fait rien n'est dangereux à partir du moment où c'est pas quotidien. Ou à partir du moment où c'est pas une habitude. Si les enfants, moi j'ai des enfants, ils cuisinent. Ils ont 40 ans, 35 ans, ils cuisinent, ils font attention, ils achètent des légumes. Et de temps en temps, ils vont au restaurant. Ouais. Le problème, c'est pas de fréquenter...
C'est la quantité.
C'est la quantité. Et tout est une question d'équilibre, en fait. Et la santé publique, c'est quoi? La malbouffe, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est la recrudescence des cancers. J'ai lu une étude, il y a à peu près plus de 200% de cancer du pancréas. Les maladies du côlon sont en explosion. Donc, on peut bien faire de la chimie à tout va et trouver ça bon. N'empêche qu'en santé publique, ça va nous coûter cher.
Voilà,
donc, la question, c'est le goût. Est-ce que le goût, ça fait partie de campagnes de santé publique où on dit que dès les premières bouchées aux enfants, il faut qu'ils commencent à goûter plein de choses. À l'époque, moi je me souviens, mes enfants ont 40 et 37 ans, et ben avec les grands-parents, ils mangeaient du foie de veau, de la cervelle, des brocolis, des asperges, dans de la purée. À l'époque, on donnait ça aux enfants.
Choisis.
C'était des bas morceaux, ça coûtait pas cher.
Le foie de génisse, le brocoli, les asperges, le chou-fleur, les aubergines, etc.
Tout ce que les gens mangent plus aujourd'hui.
Voilà, sauf que quand t'apprends aux enfants que c'est comme le langage, tu peux parler un langage familier à condition que tu saches maîtriser le langage courant et plutôt élaboré. Et ben la bouffe, c'est pareil. Tu peux de temps en temps t'enfiler une tablette de chocolat dans un canapé avec un paquet de chips.
Oui, mais chocolat noir, 80% minimum.
Non, mais peu importe, même une tablette de chocolat au lait.
Ouais, c'est toujours
la quantité.
Il faut faire attention.
Non, mais le problème, c'est l'excès. C'est comment on explique aux gens qu'il y a du très bon et du quelque chose
et de tout venant. Tu peux manger du chocolat dégueulasse si t'en manges un carré tous les 3 mois.
Voilà, exactement. Tu peux fumer une clope tous les 6 mois, c'est pas grave. Mais par contre, quand tu commences à manger de la malbouffe tous les jours et que t'en fais quasiment ton quotidien et que tu ne sais pas ce que c'est, voilà, une bonne bavette à l'échalote bien cuisinée, etc. Là, ça commence à... Parce qu'il y a plein de monde qui savent pas ce que c'est.
Non, mais tu vois, il y a quelque chose dans ce que tu dis, Laura.
On parle d'éducation depuis tout à l'heure, oui.
Il y a que... Enfin, je le vois, je le constate. Il y a des gens... leur resto, c'est systématiquement McDo, quoi.
Ben oui, mais c'est ça le problème.
Et c'est là où ça devient dangereux.
C'est le premier resto de France, McDo. Hein,
oui,
c'est,
oui. Pardon, mais disais, à un moment donné, pas tes étoilés, hein. Si t'es capable, quand tu vas au resto, de faire un coup McDo, un coup, allez, sans que ça soit un étoilé, mais quelqu'un mais
bon,
qui cuisine,
un très bon
je pense que t'as pas les mêmes risques que mais celui oui. pour qui oui. le resto, c'est systématiquement.
Oui, mais le problème, oui, mais c'est qu'il y a un discours moralisateur oui, qui, à mon avis, est insupportable. Cette morale sanitaire, quand on vient de parler de chocolat, et sans lui nous dit
sur le fond.
Alors attention, 80%, sinon c'est pas bon.
Mais ce discours.
Tu vas aller chercher une bonne cigarette de chocolat au lait bien gras devant la table, mais oui, tu vas t'en rire.
Mais t'as le petit cadeau qui va avec pour les enfants. Donc oui. quand tu disais que finalement le restaurant pour les familles c'est le McDo, ben oui, parce que après t'as un petit cadeau, donc du coup tu fais plaisir à l'enfant et en plus t'as pas payé cher.
Jeux pour enfants dans le restaurant. Mais les autres ouais. ont le qu'à faire ça, pardon. Non, mais... Didier, rien n'empêche un restaurant traditionnel de s'adapter, de dire tiens, je fais un espace pour les enfants. Oui. Je suis désolé, aujourd'hui on fait des restaurants no kids. Bah tant pis. Ouais. Bah, donc les familles non, elles vont chez McDo.
Il y a par exemple puis, des gens.
Donc arrêtons de faire la morale, soyons plus malins, trouvons des idées. C'est ça le problème.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
Tu vas pas continuer à dire bah oui, continuer à manger de la malbouffe parce que
non, moi, on dit
que ce soit quotidien.
Non, tu dis qu'en fait finalement la morale ça t'agace.
Je dis que ce langage moralisateur, la morale sanitaire,
mais heureusement qu'elle existe, la morale. Heureusement qu'elle va conserver l'équilibre.
Et si on peut aller jusqu'au bout, parce que t'étais pas là la semaine dernière, on a fait le débat, Olivier. Il faut aussi que le pouvoir prenne ses responsabilités. Si il y a dans les chips le je sais pas quoi machin voilà, truc bidule qui est cancérigène, on interdit aux industriels de l'employer.
Ah bah, on est d'accord.
J'ai un exemple très concret là-dessus. Ça doit être E171. C'était ce qui empêchait les M&M's de fondre ta main.
Oui.
L'Europe a interdit ce composant. Il y a plus de 171 dans. Alors c'est l'Europe.
C'est dans les bleus.
C'est
dans
pas
les bleus.
L'État.
Dans les
mais bleus. C'est interdit aujourd'hui. Et à un moment donné, si tu veux pas qu'il y ait un discours moralisateur qui, je suis d'accord avec toi, est insupportable.
Oh, mais non,
parce qu'il ne fait pas avancer la cause.
Non,
il faut aussi que l'État, d'une façon sanitaire, scientifique, et avisés prennent ses responsabilités.
Ah bien sûr.
Ce qui est cancérigène, on l'interdit tout simplement.
Enfin, plus d'action.
Aujourd'hui, qu'on m'explique à moi que j'ai pas le droit d'utiliser de glyphosate parce que c'est cancérigène et que dans tous les pays de l'Europe, on produit avec du glyphosate et on importe ces produits-là dans notre bouffe et on met un petit autocollant bleu, blanc, rouge pour dire c'est élaboré en France. Et ben moi, je suis pas d'accord, quoi.
On va continuer d'en parler. Je sais qu'on a Hervé qui est manager dans la restauration qui veut intervenir. Alors c'est vrai qu'on focalise sur McDonald's là qui baisse ses prix sur des menus. On a Master Poulet qui gagne des parts de marché et c'est vrai que bon nombre de bistrots aujourd'hui ont été remplacés par des chaînes de fast-food parce qu'elles sont moins chères. Alors est-ce que c'est la victoire, une victoire pour le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est la victoire de la malbouffe ? Bonjour Hervé.
Bonjour les GG.
Dites-moi alors comment vous réagissez alors notamment ce que fait McDo, la baisse du menu, dites-moi.
Ce fameux menu, il faut savoir qu'il est sorti il y a un an, voire plus. Mm-hmm. Et à l'époque, il l'avait sorti à 5 euros pour attirer toute la clientèle de collégiens qui allaient manger au kebab et autres fast-food le midi. Donc, moi, à l'époque, je l'avais pris.
La confiance.
Oui.
C'est ça. Et en fait, entre-temps, ils avaient augmenté le prix. Là, ils l'ont remis, je crois, au prix où ils l'avaient sorti à l'époque. J'en ai pris un la semaine dernière. Faut savoir que le diamètre des burgers a grandement baissé. Donc, en fait, il se rattrape quelque part. C'est obligé. Mm-hmm. Et je voulais aussi réagir sur le fait qu'il y a des familles qui préfèrent aller au McDo parce que ça coûte moins cher qu'un restaurant. Mais maintenant, McDo, quand vous regardez, tout le monde, si une famille de 4 prend le meilleur burger, le meilleur menu, c'est 18 euros en moyenne chez McDo.
Oui, c'est cher.
Vous allez au restaurant. Moi, j'ai des amis qui ont un restaurant, ils font du maison. Le plat de base, il est à 19,50. Donc, vous rajoutez 2 euros par tête.
vous pouvez tout à fait aller au restaurant.
C'est oui, pas... mais parce que c'est là, c'est là, c'est pour ça que. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le prix n'est pas le seul critère. Les gens ne vont pas au McDo ou ailleurs uniquement parce que c'est moins cher. Ils vont au McDo parce qu'ils aiment le McDo, parce que les enfants demandent d'aller au McDo, parce que c'est la sortie de famille. Et quand ils sortent du McDo, ils sont contents. Ils ont peut-être tort d'être contents si, si j'écoute Didier et Sandrine, mais c'est une réalité. Et si on ne comprend pas ça, si on est uniquement à dire oui, c'est une question de prix, il faut que les restaurateurs baissent leur prix, etc., on ne répond pas. C'est un phénomène culturel, c'est un phénomène parce qu'effectivement, aller chez McDo, c'est sympa, c'est ludique, tout est fait pour les enfants, il y a les couleurs, etc. C'est peut-être aussi aux autres restaurateurs de s'adapter, de voir comment ils vont attirer les familles, de faire des menus sympas, des menus,
et
pas simplement de pleurnicher.
Allez-y Hervé, allez-y.
Mais personne ne pleurniche.
Si, ça pleurniche.
Non, on est en train de dire que manger équilibré, c'est mieux.
C'est
la génération fast-food.
Comme disait de vos intervenantes tout à l'heure, c'est que maintenant, les parents, ils n'éduquent plus leurs enfants au goût. Moi, j'ai une petite de 2 ans, elle mange de tout. Et moi, je suis très difficile. Je fais manger plein de trucs.
Même
moi,
des... Bravo, Hervé.
Même des courgettes.
Bravo, Hervé. Oui, mais on peut aller au McDo tout en ayant un palais. Voilà, c'est pas un souci.
Je l'ai emmené une fois.
Mais là, n'empêche pas l'autre. Là aussi.
Mais c'est récréatif. C'est comme à notre époque. C'était la sortie du mois. On y allait une fois dans le mois. Et voilà.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est là aussi, je pense, que vous trompez. Il y a des familles qui vont au McDo, mais qui peuvent aussi à la maison faire des légumes.
Mais on est d'accord,
parce que ça fait partie d'un événement. Tu regardes un film à la télé, le dimanche soir,
quand je suis tombée malade, et que après la chimio, et la chimio m'a totalement empêchée de manger, mais ça a été une horreur, quoi. Je suis descendue à 38 kilos, quoi. J'arrivais plus à manger. Et ben, la première chose.
C'était un McDo.
Non, mais vous allez rire, hein. Mais le truc qui m'a j'avais vraiment envie, c'était un hamburger, quoi.
Hein? Ah oui,
mais je comprenais pas.
Non, mais pardon, Zora, ça n'a rien à voir entre un hamburger du McDonald's et un hamburger de chez
Oui, et ben ce que j'ai fait
la première chose que j'ai faite
avec un plaisir de dingue, c'est que quand j'ai pu remanger sans problème, et ben j'ai emmené tous mes petits enfants au McDo avec moi.
Ouais,
ils étaient tellement heureux de me revoir manger. En fait, j'aurais pas eu l'idée de les emmener au resto. Et je leur ai dit, mamie va mieux, on va au McDo.
Et t'aurais dit, mamie va mieux, on va au restaurant. Ils auraient fait la gueule.
Non, mais c'était sympa parce qu'en fait, pour eux, c'était.
Oui, mais bon, qu'est-ce que t'en as fait de ça? Tu dois éduquer tes enfants.
Mais c'est pas une question d'éducation. Si. Parce que non, mais tu vois, tu es en train de faire la morale. Tu penses que les familles qui vont au McDo, c'est des mauvais parents et qu'ils élèvent mal leurs
mais
enfants.
Mais oui, ça n'a rien à voir.
Les enfants, les familles, parce que ça fait plaisir aux enfants, ça leur fait plaisir.
Préconiser de manger sain, c'est un brin moralisateur. En quoi? Dis-moi.
Non, mais de temps en temps, tu vas au McDo, c'est pas la mort.
Mais c'est pas la mort. Là, on est en train de parler du fait qu'on y va tout le temps.
Il y a un message que ça envoie qui
faut
me plaît
que tu
pas.
Nous dises combien de temps il faut y aller.
Il y a un message que ça envoie que ça me plaît pas du tout. C'est quand même de faire croire aux gens que la bouffe ça coûte rien, quoi. Dire un menu à 5 euros avec, t'as dit quoi, un mini burger, une boisson,
une mini frite et une petite surprise.
Machin, voilà.
C'est pour les parents.
11 euros.
Ça envoie quand même un message comme quoi le steak haché qui est dedans il vaut zéro, quoi.
Oui, mais enfin,
et ça c'est quand même pas un bon message.
Qui décide du menu à 1 euro pour les étudiants?
Mais oui,
mais c'est exactement le même problème.
C'est pas McDonald's, c'est l'État.
Non, mais ça envoie exactement le même message et ça me plaît pas du tout.
C'est le cornu avec les socialistes.
Ça me plaît pas du tout le message qu'on envoie de dire et de faire croire aux gens que la bouffe ça n'a pas de prix, ça vaut zéro. Je suis pas d'accord. Et en même temps, quand tu essaies de relativiser là, le menu à 5 euros, c'est le prix d'un sandwich tout pourri dans une station sandwich à la gare de Lyon.
RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est la grande Sophie, bien sûr, et le squeak squeak. Tous les parents l'ont entendu dans la chambre de leur enfant et leur ont offert la Sophie la girafe.
Bah, Sophie la girafe, c'est 700 à 800 000 exemplaires vendus chaque année. C'est ce que dit l'entreprise Vully qui la vend. C'est des centaines de mille girafes également vendues dans le reste du monde. Et depuis sa création en 1961, 70 millions de girafes ont été écoulées.
Donc c'est une fierté, ça fait partie du patrimoine Sophie la girafe. Et encore, les nouvelles générations, quand on a un bébé, ben on offre une Sophie la girafe, une Sophie, voilà. Et donc on a tous mâchouillé une Sophie, on a tous fait nos premières dents sur Sophie. Et alors jusqu'à présent, on pensait que c'était du made in France. C'était une fierté française parce que c'était produit en France. Eh bien non, c'est Mediapart qui a révélé que ce mythique jouet en caoutchouc, vendu donc par l'entreprise Ulli, censé être fabriqué en France, était en fait depuis de nombreuses années massivement produit en Chine. Alors, l'entreprise se défend. Elle dit, oui, effectivement, on a des difficultés dans notre nouvelle usine de Saint-Nabor. Donc là, on fait venir des produits de Chine. Mais il paraît que ça va beaucoup plus loin. C'est ça, depuis 2013, en fait, que la fabrication serait massivement sous-traitée en Chine. Et voilà. Même Sophie la girafe est chinoise.
C'est-à-dire qu'en fait, le groupe aurait joué sur l'ambiguïté. Le Made in France aurait été remplacé par un petit écrit avec né en France Sophie la girafe. Voir colorié en France.
Est-ce qu'on doit partir à l'envers? Est-ce qu'on doit crier au scandale ou pas? 32-7.
Oui, il faut crier au scandale. Attends, ces gens-là ont fait un étendard de la fabrication française. Le NF sur l'emballage de Sophie la girafe, il est gros comme ma main, quoi. Et à un moment donné, ils en sont arrivés à relancer la chaîne de production qu'en cas de contrôle. Ils en étaient là. Oui. Donc à un moment donné, moi, je le dis à longueur d'émission pour la bouffe, mais ça marche aussi avec Sophie la girafe. Quand t'as fait du Made in France un porte-étendard, il faut que tu sois irréprochable dans ta façon de produire. Et il faut qu'on aille plus loin. Plutôt que de payer les mecs à rien foutre dans les bureaux, l'État devrait payer des contrôleurs parce que c'est trop facile de mettre un coup de peinture, le packaging en France et dire c'est français, quoi.
Non,
c'est exactement pareil sur l'alimentation. Moi, je veux qu'on aille plus loin sur étiquetage, donc provenance, étiquetage, contrôle.
Du point de vue du droit, il y a tromperie?
Je pense, oui. Oui, sincèrement, on pourrait aller sur ce terrain-là. Parce que pour le consommateur, c'est pas neutre. Le sujet, c'est vraiment le décalage entre le discours et la réalité. Je veux dire, quand le consommateur, lui, il achète Made in France, il achète une promesse, il achète un savoir-faire, il achète quelque chose de local, puisque donc c'est ou national, tu vois ce que je veux dire. Mais là, en fait, moi, je trouve que ça pénalise ceux qui jouent la transparence à 100% et qui disent, voilà, nous, on est vraiment fait Made in France. Donc oui, sur le terrain juridique, on peut très bien aller sur la tromperie. Et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres qualifications juridiques sur lesquelles on pourrait aller les chercher.
Parce que dire qu'elles sont peintes et emballées en France, pour en faire du Made in France, je suis désolé, ça suffit pas, quoi.
Oui, alors moi je serais un peu plus mesurée. D'abord parce que c'est né en France et que dans l'esprit de tout le monde, Sophie la girafe, elle est française, quoi qu'il arrive. Elle est française, c'est une création française et ça a été imaginé en France.
Une icône nationale.
Oui, voilà. Non, mais pour les, c'est important d'avoir. Quand on t'es au fin fond de n'importe où dans le monde, tu sais que Sophie la girafe, c'est français. Donc déjà, ça c'est acquis.
Ok, très bien. L'idée
ça, c'est
française.
Acquis, voilà, c'est acquis. Après, moi, j'ai pas envie qu'on plombe non plus ça totalement dans un bashing qui. Je pense que juridiquement, effectivement, il faut clarifier et peut-être faut donner l'opportunité à l'entreprise de dire revenez à la fabrication 100% française et surtout dites-nous pourquoi depuis 2013 vous êtes passé chez. C'est-à-dire que on a des
ça, la vraie question, voilà, c'est pourquoi ils sont obligés d'aller fabriquer en Chine.
Voilà, je présume que c'est des normes, des machins. Je pense que derrière ça il y a des normes, il y a des conditions de production, il y a certainement des composants qui sont interdits en France.
Mais du coup, le travail, surtout.
Mais,
le vrai sujet, c'est pourquoi l'usine, c'est une usine nouvelle en plus, de Saint-Nabor, est en difficulté.
Voilà.
Pourquoi en France, on nous promet qu'on va réindustrialiser. Vous allez voir, là, tous les candidats présidentiels, et on va recevoir Bruno Retailleau tout à l'heure dans les grandes gueules. Je pense qu'il va nous dire aussi la même chose. Je veux réindustrialiser le pays.
Avec le coût de la main-d'œuvre et les normes en France, tu peux pas
rester. On s'aperçoit que cette volonté se heurte au réel. Le réel, c'est le coût du.
Pourquoi tu mets Made in France? C'est produit en
Non, mais pour ne pas enterrer quelque chose qui est aussi un peu de notre patrimoine, c'est de laisser l'entreprise s'exprimer sur pourquoi. Voilà. Et ensuite,
mais ça ne change pas le reste.
Non, si, parce que c'est important, parce que soit on fait du bashing, on la descend et on la défonce, et plus personne n'achète la Sophie la girafe. Et au revoir. Et là, on la termine. On la termine. Et auquel cas, merci, au revoir. Voilà, n'achetez plus. Au revoir. Ok. Ou soit on dit, bah écoutez, voilà. Dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi. Peut-être que le réel va raconter, parce que le réel, lui, il ment jamais. Peut-être qu'ils vont nous dire réellement normes, coûts, contrôle, machin, bidule, etc. Et que ça coûtait tant et qu'on était au pied du mur et qu'on l'a fait parce qu'on savait le risque qu'on prenait. Maintenant, comment on fait pour faire du 100% français ? Ben, on vous explique. Ben, si on fait du 100% français, ben, c'est on augmente Sophie la girafe de 30%.
Mais c'est la fin du monde, Zora. Est-ce que c'est la fin du monde ?
Mais c'est surtout une réalité qu'il faut expliquer.
À 7 euros, soit en concurrence avec une pas limitation chinoise à 3 euros.
Il faut laisser l'entreprise s'expliquer et pas la tuer.
Non, mais tu vois, moi, j'en fais
un élément matériel et un élément intentionnel. Parce que là,
j'en fais un principe, Zora.
Zora, elle est en train de nous dire que oui, alors il faudrait connaître les raisons. Mais pardon, les raisons qui vont nous avancer, on les connaît déjà et ça ne va pas pour autant justifier la qualification juridique. Parce que là, à partir du moment où on te trompe.
Mais non.
Non, mais c'est vrai, il ne faut pas non plus mentir.
Ben oui.
Voilà. Mais
c'est ce qu'on reproche.
C'est que moi, je suis producteur de charolais.
Oui, oh.
Du charolais, tu peux en faire dans un feedlot en Amérique du Sud et demain vendre des burgers charolais en France, quoi. Et c'est exactement le même principe.
Oui, je suis d'accord.
Donc,
pour autant, j'aurais pas envie que, comme producteur de charolais avec un savoir-faire qui est le tien, j'aurais pas envie que si un jour tu as un accident d'entreprise ou que tu ça merde pour toi, c'est compliqué. J'ai pas envie qu'on te termine. Voilà.
Tu vois,
j'ai pas envie.
Si tu commandes,
je te tendrai la main.
Si tu commandes Sophie la girafe sur un site marchand bien connu. D'accord, portable, application, tu veux commander.
Qui crée des emplois en France.
Ça coûte 15 euros. À un moment, il y a marqué sur la marque. Tu sais, dessous, tu regardes spécification du produit. Il y a écrit sur la marque fabrication française. Et en dessous, il y a marqué fabrication française. Et juste en dessous, une production réalisée à 60% sur le site de Rumilly en Haute-Savoie. Voilà, 60%.
Oui, mais donc fabrication française, pas complètement. Il faut plus de transparence.
Moi, je suis désolé,
après, est-ce que ça changera quelque chose sur le succès de la girafe ? Non, les gens continueront à acheter une girafe.
Et au moins, ils seront.
Peut-être pas, on verra.
Ils auront le choix.
Ils ont le choix de quoi ? Quel choix ?
Déjà, on a notre industrie, elle est mal.
Ils auront le choix d'acheter des jouets.
Complètement chinois. Mais tous les jouets sont chinois. Mais pardon, Didier, dans quel monde tu vis ? Il y a pas. Moi, j'ai encore des enfants qui sont en âge d'avoir des jouets. Mais t'as quasiment pas de jouets français. Alors, si t'as parfois des petits trucs qui sont fabriqués en France en bois très joli, mais qui sont beaucoup plus chers.
Mais c'est ça que je te dis, Olivier.
Mais personne va te acheter des jouets en bois.
Si sur Sophie la girafe, c'est marqué Made in China, c'est du Made in China. Et puis voilà, ça sera comme le reste des autres jouets. Mais tu m'as pas fabriqué en France.
Donc t'as pas résolu le problème. Le vrai problème, c'est que si on veut que ça soit fabriqué en France, c'est qu'il faut jouer sur le coût du travail.
Je pense qu'il y a une partie des choses, c'est mort. Quoi.
Oui, mais ça, le consommateur, mort, Olivier, le consommateur, il n'en
achète des jeux Jura très chers, si tu veux.
Le consommateur n'est pas comptable du fait que ta chaîne de production, en partie, elle doit être faite dans un pays étranger. Le consommateur, lui, il est neutre, il est là et il fait confiance à ce qu'on lui dit. On lui dit, c'est français, j'ai envie d'acheter français. T'as envie d'être patriote, voilà. Peut-être, mais en attendant, tu ne mens pas au consommateur.
Moi, pour moi, c'est ça. Acheter, c'est un acte citoyen. Que tu fais ou que tu fais
mais
pas.
Mais regarde l'industrie alimentaire.
Comme quand t'achètes bio, comme quand t'achètes local.
Dans tout, t'es floué.
Ceux qui vont reprocher à cette entreprise, Vully, de mentir, sont les mêmes qui vont nous expliquer « Ah non, faut surtout pas toucher au coût du travail, que vous comprenez le modèle social français. »
On est d'accord, Olivier.
C'est les mêmes. C'est les mêmes qui vont ensuite
pleurer. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais il faut aller plus loin sur l'étiquetage et le fait que ce qui est marqué sur l'étiquette, ça soit respecté.
C'est les mêmes qui font des enquêtes. C'est les mêmes qui font des enquêtes. Regardez l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire, le produit chimique dans l'industrie alimentaire, c'est hallucinant.
Ben oui,
bon, on va parler
des fast-food tout à l'heure.
Oui, mais regarde, c'est exactement pareil. Dans l'étiquetage. Oui, c'est là où j'en fais un principe.
Faut arrêter l'hypocrisie. C'est exactement pareil quand tu achètes une Renault.
Mais oui.
Tu peux te demander aujourd'hui, hormis le losange et la marque, qu'est-ce qui est encore français.
Mais rien.
Si tu veux des ouvriers français, français aujourd'hui, t'achètes une Yaris.
Et ben c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire.
On dit la Yaris, elle est faite, assemblée, mais les pièces sont pas produites en France. Il y a une raison.
Oui, sauf que ne se vendent pas, ne se vendent pas que c'est made in France.
Yaris,
ah bon, Renault,
ah bah quand tu vas chez une Renault, il te dit ah ben tout est fabriqué en Chine. Ah bah non, il te le dit pas. Il dit tu achètes une Renault et on te dit
c'est la marque française. Mais d'accord, mais ils sont pas là en train de se vanter et d'espérer le fait que Yaris est en plus.
Du côté de la direction de la fabrication de Sophie Lagiraffe, on dit actuellement, c'est intéressant aussi d'écouter, il dit on est en discussion avec la DGCCRF. La DGCCRF, c'est les répressions des fraudes.
Oui.
Ils disent non, mais c'est pas ça. C'est ce qu'ils disent. On voudrait savoir précisément ce que regroupe le Made in France.
Oui, voilà,
qu'on met derrière le Made in France.
Il y a peut-être une ambiguïté derrière le Made in France. Tu vois.
Moi, je suis pareil.
Ouais, moi, je pense.
Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a.
Mais tu vois.
Qui a le droit d'utiliser le Made in France?
Tu vois.
Est-ce que c'est 100% ou pas?
Au lieu d'aider ces entreprises à fabriquer français, ça, en revanche, on va envoyer des fonctionnaires de la direction de la concurrence. Ça, c'est, alors là, ils seront là et on va mettre des amendes. Là, il y a du monde. Là, pareil, là, ça marche. Là, on va mettre des amendes. On va mettre des amendes et on n'aura rien résolu.
On a si t'es pas journaliste et que tu te dis Jérôme, journaliste, t'es chopé par la loi.
Ah bah, il y en a plein sur les réseaux sociaux.
Hein. Jérôme de l'Essonne, bonjour.
Il s'invente.
Bonjour, Jérôme.
Bonjour, les grandes gueules.
Salut, Jérôme, pâtissier dans l'Essonne. Vous avez des gamins?
Oui, j'en ai eu 4.
Et ils ont eu des Sophie Lagiraffe?
Oui, tous des Sophie Lagiraffe, des produits dérivés. On avait des biberons, parce qu'on trouvait ça sympa, on trouvait ça rigolo, et puis voilà quoi.
Et vous étiez attaché à ce que ce soit made in France? Et vous vous sentez un peu floué ou pas du tout?
Non, je me sens, enfin, si, un petit peu quelque part, mais après, faut aussi comprendre que c'est une entreprise qui sont là pour faire du bénéfice et que c'était une entreprise française. Et ça va être comme vous avez dit, les coûts de fabrication, les coûts de charge. Encore une fois, l'État aurait baissé les charges. Je pense qu'ils embaucheraient. Et puis, c'est ce qui va finir par se passer avec beaucoup d'autres entreprises françaises. C'est, encore une fois, c'est l'État se gave sur les charges, sur ceci. Pour 100 employés français, ils vont avoir 1000 employés chinois. Pourquoi ils se plaindraient?
C'est ça qui est dingue.
C'est ça le problème.
Jérôme, pour moi, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils ont à enlever le logo bleu, blanc, rouge de dessus.
Mais bien sûr, mais de toute
c'est
façon,
tout, quoi.
Bien sûr, non, mais qui l'enlève ou qui l'enlève
parce
pas,
que tout le monde l'utilise, dans tous les domaines, on utilise le logo bleu, blanc, rouge. Hein. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a réellement de fait en France derrière. Quoi.
De toute façon, ce logo bleu, blanc, rouge, on le retirera de partout, de fait, puisque plus rien sera fabriqué en France, Didier.
Mais
j'aimerais bien.
Arrêtons de communiquer.
Mais j'aimerais bien qu'on aille à cette rigueur-là.
C'est débile, parce que ce qu'il faut...
Mais non, mais je suis peut-être débile, mais moi, j'applique ça à la bouffe, et je suis désolé, des normes de fabrication dans tout aujourd'hui.
Mais ce qui compte, c'est que ce logo bleu, blanc, rouge se développe, pas qu'on le retire parce qu'on a bien respecté les règles. Voilà.
Développe en faisant fabriquer en Chine, je suis désolé, ça sert à rien.
Il faut encourager la fabrication made in France en revoyant certaines règles.
Tu me mets 3 mois,
merci, t'inquiète.
On a Mickaël qui va intervenir. Bonjour, Mickaël.
Bonjour tout le monde.
Bonjour,
Mickaël, conducteur de train. Vous sentez flou? Vous vous êtes fait avoir ou pas, dites-moi?
Pas du tout. Très franchement, en fait, je vais vous expliquer aujourd'hui, on regarde plus du tout la provenance parce qu'on sait que tout vient de toute façon de Chine. Donc on se prend même plus la tête à savoir si ça vient de Chine ou pas. On l'achète en France, donc on se dit, de toute façon, c'est acheté français. On a confiance, on va dire, en la marque. Maintenant, qu'elle vienne de Chine ou qu'elle vienne d'Alaska, de Moscou, ça ne nous regarde pas. Et puis c'est une tradition française, je veux dire, on a tous eu, mes parents m'ont donné, j'ai 46 ans, hein, donc il y a 40 ans peut-être, j'ai eu une girafe,
c'est la troisième génération.
On n'a jamais fait attention à ce qui a marqué, made in France ou pas made in France. C'est maintenant qu'il commence à y avoir plein de choses où on essaie de rester patriote, mais ça n'a rien changé, je veux dire.
Alors c'est pour ça que je tenais à lire l'étiquette, parce que si aujourd'hui, avoir juste la conception et 60% de la fabrication du produit
en France,
ça sert à mettre le made in France. C'est pour ça que le PDG a raison de dire expliquez-moi précisément ce que recouvre l'étiquette
made
in France.
Mais Mickaël dit quelque chose de très intéressant.
C'est fini, c'est fini.
On enlève des contingents entiers de jouets qui sont pas aux normes, qui sont cancérigènes, qui s'inflamment. Ça existe quand même, quoi.
Merci à Jérôme, merci à Mickaël d'avoir pris part à notre discussion.
RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est nous la liste d'ingrédients.
Je mange
je mange.
Ce sont des associations que vous connaissez maintenant. Elles s'appellent Yuka, Foodwatch, France Association Santé. Elles écrivent à l'État. Et qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent un encadrement de la publicité autour des produits transformés. Alors, vous les voyez autour de moi, pour ceux qui sont devant RMC Story. Ce sont les chips, ce sont les gâteaux, ce sont les chocolats. Ce sont les produits prêts à cuisiner ou à réchauffer. Ce qu'a acheté Anaïs, là, à la publicité, elle a acheté
On vient de la gauler,
elle est là. Et Didier lui dit, non, mais mange pas ça. C'est exactement ça. T'as succombé, ma chère Anaïs. Ouais, exactement. T'as reparti avec ton paquet de chips.
Allez, au revoir.
En fait, ce que disent ces associations, ce sont ces produits qui aujourd'hui représentent 60% de l'offre alimentaire en France, 50% des calories consommées par les enfants. Ah ouais. Ils disent, voilà, il faut arrêter avec ces produits transformés. Alors, on peut pas arrêter de les vendre, on peut pas les interdire. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on soit mieux informé et que ce soit mieux encadré. Ce sont les produits ultra transformés. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que c'est mauvais pour notre santé ? Est-ce qu'il faut arrêter de faire de la pub pour ces produits ? Moi, je vais vous demander, est-ce que vous allez arrêter de les acheter ? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, monsieur Didier Giraud.
Écoute, je pense que tu dis on peut pas arrêter. Je pense que ce truc-là est très simple, très très simple. Les produits ultra transformés, c'est en gros qui contiennent des ingrédients qu'il n'y a pas dans votre cuisine. Le truc bidule, l'aspartame à la place du sucre, enfin tous ces ingrédients qu'il n'y a pas dans votre cuisine. Il y a deux solutions. Soit c'est un danger pour la société et pour ta santé, auquel cas on interdit aux industriels de mettre ces produits qui sont dangereux pour la société dedans. Enfin, je suis désolé, on vend pas aujourd'hui, je sais pas moi, du pâté avec du cyanure. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, à un moment donné, soit la science prouve que ces produits sont dangereux pour la société, et il y a une liste de produits qui est interdite dans la composition des produits des industriels, et on serre la... On serre le bec aux industriels pour leur retirer ces produits-là de la consommation.
C'est une question de quantité. L'huile d'olive, la meilleure huile d'olive du monde.
Non, mais c'est pas ça qu'on parle. On parle des ingrédients qui ne sont pas dans ta cuisine. Non, mais
si t'en bois des litres, tu vas pas être en bonne santé. Hein. Pourtant, si t'en bois un petit peu sur ta salade, c'est très bon. Il y a des oméga, je sais pas quoi.
C'est donc, pas du tout ça.
Je ne défends absolument pas les produits transformés. En revanche, de dire il faut interdire un truc qui serait pas bon, en fait, si t'en prends une fois de temps en temps par plaisir, allez, un coca de temps en temps, un truc avec du B412 de temps en temps, mais là, il n'y a pas de conséquences pour la santé.
Mais je pense qu'il y a des ingrédients, des ingrédients qui sont dangereux à la santé et qui sont tolérés dans les fabrications, tu vois, il y a un moment donné, et puis après derrière ça, moi je plaide depuis des années, faut qu'on aille sur un vrai étiquetage quoi, hein. Un vrai étiquetage qui dise bah là contient tel produit cancérigène, là provient cette viande provient d'Amérique du Sud. Non mais à un moment donné, c'est trop facile aujourd'hui de dire de se cacher derrière des recettes d'industriels qui sont inviolables, qui sont secrètes, on met juste un truc et il dit à la loupe sur le paquet en disant il y a du machin, il y a du truc, il y a du bidule. Moi, je pense que soit on prouve que c'est dangereux à la société, auquel cas on interdit dans les recettes, soit on arrête de faire chier les gens, quoi.
Mais c'est dans ce que tu dis, la chose qui est vraie et qui nous rend tous fous, c'est l'espèce d'injonction contradictoire. C'est-à-dire, on nous dit c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est cancérigène. Et en même temps, on le trouve partout, donc on se dit, bah attendez, c'est pas possible, si c'était si dangereux, ils le vendraient pas. C'est comme s'ils pensaient à notre santé. Et là où on nous trompe beaucoup, c'est que par exemple, je regardais un reportage où il nous montrait qu'un gâteau, le même gâteau qui a pas changé, pour nous il a pas changé, c'est la même marque, on se dit, bah moi je l'ai mangé petit, et puis j'ai pas eu de problème de santé. La composition a changé complètement.
Rien à voir.
Et donc ils ont vu que pour les jeunes enfants, ils avaient dans leur corps finalement des polluants qu'on n'avait pas, nous, au même âge, et dans un degré de concentration, et c'est entièrement lié à la consommation. Donc, effectivement, c'est une cause de santé.
Est-ce que tu achètes, toi, pour tes enfants ou pas?
Alors, moi, je suis obligée de faire très attention parce que mon enfant est diabétique de type 1. Ouais. Donc, nous, on est obligés de regarder la composition. Moi, je fais attention parce que de toute façon, j'ai pas un bon métabolisme. J'ai un métabolisme de merde. J'ai un lipodème, donc ça veut dire en gros que je grossis très vite, même en mangeant peu. Donc, je m'interdis ces rayons. je suis désolée, je passe pas et je suis obligée de faire attention.
Après, c'est la liberté du consommateur. On n'est pas obligé de les acheter. Moi, il y a une offre. Et puis après, il y a.
Est-ce que tu crois que la pub, c'est une vraie efficacité là-dessus? Moi, j'y crois pas.
Moi, au-delà de mon cas personnel ou de la liberté, il y a l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, sur les enfants, ils sont assaillis. Je pense que les adultes, vous vous rendez pas compte à quel point Internet est en train de pourrir le cerveau des enfants.
Mais les enfants, ils sont pas sur Internet.
Non, mais attendez. Pour Internet, ce qu'ils voient, les publicités aussi, mais tout ce qu'ils voient. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques semaines, le Skibidi Tantafrix, ça n'existait pas. Enfin, voilà. Personne parlait de ça. Là, mes élèves, il y en a plein, ils me parlent. Skibidi, c'est devenu une référence. C'est quoi Skibidi Tantafrix? C'est des espèces de petits, une production
bonbons.
En IA, non, de Fresito. D'accord. Et Bananito et des histoires de tromperies. Vous dites, c'est rien. Comment quelque chose est rentré dans la tête d'autant d'enfants aussi vite, c'est comme Six Seven, on peut en rire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on n'arme pas nos enfants avec un esprit
critique... Mais c'est l'éducation, c'est les parents.
C'est la
responsabilité des parents,
ça.
Fatima.
Mais il faut que les parents aussi se rendent compte que...
C'est la responsabilité d'achat des parents. C'est la responsabilité d'éducation. Quand tu passes le rayon du supermarché avec tes enfants, quand ils disent je veux ça,
non.
Tu dis non. Tu dis non. Et c'est pas de la faute de l'industrie.
Oui, mais quand ils disent on va vendre.
Alors on peut discuter après des additifs et des produits que l'on met ultra transformés. Mais tu dis non, on prend pas. C'est tout.
Je suis d'accord sur le non. Oui, je suis d'accord sur le non, on prend pas. C'est comme pour le téléphone, on dit non à ses enfants. Sauf que ce qui est vrai et ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 2026, par rapport aux années 2000 et par rapport aux années 90, en face, on a des ingénieurs en manipulation
sensorielle.
PNL, en manipulation sensorielle, en manipulation du cerveau, qui vont faire exactement le petit système de récompense qui fait que votre enfant, quand il veut regarder Roblox, c'est pas comme quand nous, on voulait regarder le Club Dorothée, parce que Dorothée, c'était sympathique, mais papa et maman disent non, voilà, c'est le désir. C'est un petit conflit normal. Mais Roblox, les systèmes de récompense, les petites flammes Snap, on est dans autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, on a face à nous une vraie machine.
Préserver vos enfants de tout ça.
Développer les
Antoine,
critiques.
Oui, mais vraiment.
J'ai autour de moi des gens de mon âge qui ont fait des enfants et qui. Pour qui c'est absolument interdit de manger des chips. Jamais ils mangeront de chips. Pour qui il n'y a pas de télé. Ou alors on choisit le dessin animé, etc. Et en fait, c'est possible. C'est possible. On n'est pas victime de la pub. On n'est pas victime de la société dans laquelle on grandit. Et en même temps, moi, quand je fais mes courses au Leclerc, à Dunkerque, je vois effectivement des familles souvent en surpoids, avec l'enfant. Et tu veux quoi dans le rayon des gâteaux et tout? Ça n'est pas possible. C'est juste une discipline personnel. Voilà. Et enfin, on a le droit de vouloir acheter ça une fois de temps en temps, pour se faire plaisir. Et donc, c'est toujours le truc en France, on a le sentiment qu'il faut tout interdire parce que les gens seraient pas assez grands pour choisir ce qu'il y a de bon pour eux-mêmes.
Non mais moi, Antoine, tu te trompes. Il y a là-dedans des principes actifs basés sur de la chimie, de la science, qui te rendent addict, qui t'empêchent de t'arrêter à la moitié du paquet, et qui, enfin, je veux dire, c'est calculé, ça, c'est réfléchi.
On interdit ce produit-là, je suis d'accord.
Sur les chips, ils ont travaillé pendant 30 ans là-dessus. Hein.
Sabrina,
ils sont au point là-dessus.
Snap, Roblox, et tout.
Qui veut intervenir au 32-16. Bonjour. Bonjour Sabrina.
Excitation. Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, est-ce que ça pourrait être efficace de faire moins de pubs pour tous ces produits transformés? Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je suis un peu d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Je suis absolument d'accord qu'il faut arrêter les pubs sur tous ces produits transformés. Mais alors moi, je suis un parent qui a élevé deux enfants de différentes générations. J'ai une fille qui a 22 ans et mon petit qui a 13 ans. Mmh. Et je vois que j'ai pu quand même préserver ma fille, mais pas mon fils du tout. Parce que moi, ce qui me perturbe, c'est les pubs indirectes.
Ah oui,
c'est tous ces influenceurs qui font des partenariats dans des restaurants, qui mangent des choses terribles. La grande mode du testi crusti, j'en veux. Je trouve ça horrible, terrible. Alors, moi, je ne lui laisse pas forcément accès ni à la télé, ni à Internet, mais avec les copains, avec... Tôt ou tard, il passe à ces images-là.
Mais donc, vous arrivez à dire non, vous arrivez à résister
la,
quand même.
Ah voilà. Oui, à la maison, oui. Ben oui. Complètement.
Ben
oui,
mais ce que vous dites, Sabrina, c'est, comme disait, votre enfant de 13 ans, quand il aura 21 ans, non, il en mangera, quoi.
Il fera ça. Il fera ce qu'il veut.
Ce que dit Sabrina, il y a un proverbe qui est très juste, qui dit votre enfant est pas simplement, l'enfant n'est pas simplement l'enfant de ses parents, c'est l'enfant d'une époque. Vous dites bien que Sabrina, elle compare ses deux enfants. C'est la même mère, même système d'éducation, même chose. Mais lorsque, moi je vois bien avec mes élèves, lorsque je dis 6, 7, 6, 7, 67, ils vont en avoir 10 qui vont dire 6, 7. Parce que c'est rentré dans leur tête presque malgré eux.
Nous
et pareil.
D'un truc qu'on ne saisit pas là.
Mais voilà, parce que vous êtes adulte. Mais il y a des choses qui rentrent comme ça dans le cerveau et qui sont en train de pourrir le cerveau des gosses. Est-ce que dit Sabrina, c'est que le parent peut être aussi démuni parce qu'il y a les placements de produits des influenceurs. Et là, on a vraiment le désir triangulaire. Le désir triangulaire, ouais, c'est quoi? C'est j'aime ma star utilise ça, je désire ce produit. Ça, c'est radical. Pour les enfants.
On a David qui va intervenir après Sabrina. David, il est cuisinier du côté de l'Eure-et-Loir. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Et justement, vous pouvez lutter contre les produits transformés ou pas?
C'est ce que j'essaie de faire presque tous les jours. Je donne des cours à des enfants, je fais des ateliers de cuisine.
Ça, c'est génial.
Et donc, je travaille avec Solidéo, un jardin solidaire à côté de Vauve, dans le 28. Et. Je suis un petit peu troublant parce que c'est la première fois que je vous ai au téléphone.
Ouais, je vous en prie, tout va bien se passer.
Oui.
Vous ne risquez rien.
C'est amical ici.
Mais oui, David, donc vous arrivez à éduquer les enfants et à leur dire attention à ces produits ultra transformés, c'est pas bon pour la santé. Vous dialoguez avec les gosses,
sûr,
quoi.
Bien sûr, tout le temps, on essaie de leur faire manger des légumes au maximum. Je fais des ateliers, je leur fais des cakes aux carottes ou à la courgette, des choses comme ça. Leur apprendre aussi à essayer de manger des légumes de saison. Donc c'est pas toujours facile de leur faire manger tout ça. On transforme des lentilles, on fait des galettes, on fait des choses pour que ça puisse leur plaire. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait on est obligé de rentrer dans des codes.
Alors donc, voilà. Les faire enfants, du nugget, des trucs voilà, qui ressemblent à ce qu'ils mangent.
Un burger avec une galette de lentilles, faut faire.
Ouais, mais David, est-ce que c'est grave ça?
Non, parce qu'on arrive à leur faire manger des légumes.
Non, mais même si c'est de la viande, enfin, je suis désolé. À un moment donné, ce qui est grave dans la nourriture des enfants et pas que d'ailleurs, c'est pas les ingrédients comme les légumes, la viande. Ce qui est grave, c'est les produits qui sont issus de la chimie, qui donnent un goût, qui donnent une appétence, qui donnent une addiction. Ces trucs-là, je suis désolé, il faudrait mieux les identifier sur le packaging. C'est tout.
Merci Sabrina et merci David d'avoir discuté avec nous. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit interdire la pub sur les produits transformés là? Ceux qui m'entourent, si vous regardez RMC Story, vous mettez oui quand même. Ah oui, à 64,5%.
Ils ne vont pas arrêter d'en manger. Ce qu'on devrait vraiment interdire, c'est les pubs forcées. Vous voyez, sur Internet, maintenant, il y a des pubs. Avant, on pouvait
plus lire un seul article sur Internet.
Et moi, j'ai l'impression d'être dans le film où on t'ouvre les yeux pour t'obliger à regarder un truc.
C'est Orange Mécanique.
C'est Orange Mécanique. On est vraiment dans ça, où tu ne peux pas zapper.
Voilà les GG qui reviennent demain entre 9h et midi pour le meilleur des grandes gueules, mais le retour des GG en direct.
Ça sera bien sûr
le 10 août.
Le 10 août, d'ici là, le meilleur des GG dès demain à 9h.
RMC, 9h midi, le meilleur des grandes gueules.